Vous êtes sur RTL.
Semaine, les amis, à l'écoute de RTL. Pour la suite, jusqu'à 9h30, c'est Yves Calvi. Bonjour Yves.
Merci Julien, bonne journée à vous et bienvenue à vous tous qui nous écoutez. Il y a un an, la première victime de la pandémie du coronavirus décédait en Chine. Nous allons faire le point ce matin et en deux temps, dès 7h15 avec notre brigade RTL, puisque nous partirons à Pékin pour savoir si, oui ou non, il y a une reprise de l'épidémie chez les Chinois. Et puis à 8h15, Virginie Garin nous expliquera les liens établis aujourd'hui entre biodiversité et pandémie, bref, entre l'homme et son bétail. Deux autres rendez-vous avec nos invités. Tout d'abord, Nathan Métainier, qui est conseiller climat de la France à l'ONU à l'occasion du sommet de la planète, ce à un an de la COP26. Il répondra aux questions d'Alba Ventura dès 7h40. Et puis à 8h20, Karine Lemarchand sera avec nous dans ce studio pour le lancement d'Opération Renaissance à 21h05. Ce soir sur M6, 10 obèses ont décidé d'affronter leur obésité morbide, notamment par le biais de la chirurgie. Nous sommes le lundi 11 janvier 2021. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Une nouvelle semaine, un nouveau vaccin et des Français de moins en moins réticents.
De quoi rassurer un peu les autorités. La campagne va s'intensifier, il y a urgence, notamment à Marseille où la souche britannique du virus semble se propager à grande vitesse. Deux ans après l'incendie mortel dans un immeuble de Courchevel, RTL a eu accès au rapport d'expertise. Il est accablant pour le propriétaire. Donald Trump, visé par une nouvelle procédure de destitution à 10 jours de la fin de son mandat, nous y reviendrons. Et puis nous l'apprenons à l'instant, le décès de Georges Pernoud, présentateur historique de Thalassa. Il avait présenté l'émission pendant 37 ans.
La politique, Olivier Bost.
Et que faire du temps qui reste d'ici la fin du quinquennat? C'est la question de la semaine.
Rendez-vous dès la fin du journal.
RTL Matin.
Après Pfizer, le vaccin Moderna débarque donc en France ce matin. Les 50 000 premières doses vont être livrées en priorité dans l'est du pays, là où le virus circule le plus. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
C'est évidemment une avancée, cela devrait permettre d'accélérer encore un peu plus la vaccination.
Oui, avec un deuxième vaccin aussi efficace que le Pfizer et plus pratique puisqu'il se conserve à 4 degrés, donc pas besoin de super congélateur. Ensuite, le nombre de centres de vaccination devrait tripler cette semaine, 3 par département. Enfin, les personnes de plus de 75 ans qui vivent chez elles vont pouvoir s'inscrire dès aujourd'hui sur le site du ministère de la Santé. Un numéro de téléphone va aussi être donné. Alors pour l'instant, ce n'est pas ouvert, mais on l'espère dans la matinée. La vaccination commencera lundi prochain. Pas besoin de consulter son généraliste. Le rythme s'accélère. Le dernier chiffre était de 93 000 personnes vaccinées en France, mais il datait d'avant-hier soir. On a dû dépasser ce week-end les 100 000.
Merci Virginie Garin. L'opinion publique est en tout cas en train d'évoluer sur la question du vaccin. Conscient sans doute qu'il s'agit là de la seule et unique solution à moyen terme. Plus d'un Français sur deux, 56%, souhaite désormais se faire vacciner. Une hausse de 11 points en un mois tout de même. Et même les irréductibles semblent s'y résoudre. Gauthier Delon-Bugard.
Hors de question de me faire vacciner, répète Sylvie depuis le début de la pandémie.
Parce que je suis vaccinée de rien en fait, à part le tétanos, la rougeole, et que je suis assez sceptique sur tout ce qu'on met dans les vaccins. Et voilà.
Mais face à la crainte d'un nouveau confinement, face à l'arrivée du variant anglais sur notre sol, cette Parisienne a changé d'avis en seulement quelques jours.
Pour la collectivité, je me ferai vacciner. Parce que si on est plusieurs à dire je me vaccine pas, on va jamais y arriver. Jamais s'en sortir.
D'autres.
J'ai pas encore décidé si oui ou non.
Hésite encore.
Un an pour préparer un vaccin, c'est trop juste.
Un argument contesté par les pro-vaccins.
Il y a eu un énorme effort de recherche médicale qui a été fait. C'est assez extraordinaire d'avoir développé ce vaccin-là en moins de 12 mois.
On prend même pas ceux qui sont pas d'accord. On est vacciné pour qu'on est gamin. Et là, tout d'un coup, on veut plus se vacciner.
Non à l'injection. Ce discours est majoritaire chez les jeunes. Pourtant, Clara, 23 ans, ne dira pas non à une piqûre.
Les jeunes, on a beaucoup crié sur nous parce qu'on n'était pas responsables, etc. Alors que je pense qu'on est tout à fait prêt à se faire vacciner, donc moi en tout cas personnellement je l'attends.
Ouais. Seul point de consensus pour 7 Français sur 10.
Je sais pas à quel terme en fait on va pouvoir se faire vacciner.
La lenteur de la campagne de vaccination.
Gauthier Delon-Bugard. Le couvre-feu à 18h étendu depuis hier soir à 8 nouveaux départements, notamment le Cher, l'Allier, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, où la découverte à Marseille d'un foyer de contamination au sein d'une même famille inquiète les autorités. 7 nouveaux cas liés au variant britannique du virus y ont été détectés. Parmi les mesures mises en place pour tenter de limiter la propagation, la limitation du nombre d'élèves dans les lycées, elle sera sûrement prolongée au-delà du 20 janvier. C'est ce qu'a fait savoir hier Jean-Michel Blanquer. Il était là invité invité du grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Sachez enfin que l'OMS entamera finalement jeudi sa mission en Chine sur l'origine du virus. Pékin vient d'accorder les visas. Visite ultra sensible pour les autorités chinoises, soucieuses d'écarter toute responsabilité dans cette pandémie. Un an jour pour jour après l'annonce, c'était le 11 janvier 2020, du premier décès officiel dû au Covid, un homme qui faisait ses courses sur un marché de Wuhan.
Nous ferons un point sur la situation avec notre brigade RTL dès 7h15. Il est pour l'instant 7h04. Permettre aux Français les plus modestes d'avoir accès à des produits frais, c'est l'idée du chèque alimentaire qui pourrait bientôt voir le jour.
Une idée proposée par la Convention citoyenne pour le climat, validée, semble-t-il, le mois dernier par Emmanuel Macron et reprise ce week-end par la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Une solution pour permettre à tous de se nourrir de manière saine, car l'achat de fruits et de légumes frais est encore aujourd'hui pour certains une dépense trop élevée. Reportage de Christian Panvert.
Mickaël a du mal à s'en sortir avec un salaire au SMIC. Après avoir payé le loyer et les charges, il reste peu pour les repas. Il aimerait bien acheter moins de produits surgelés, moins de conserves, mais pour l'instant impossible de faire autrement. Alors oui, il serait ravi de pouvoir bénéficier de chèques alimentaires.
Je suis père de famille avec 4 enfants. Les produits frais sont vraiment hors de prix maintenant. Si ce genre de choses se fait justement pour aider nos agriculteurs, pourquoi pas, oui. Franchement, je serais plutôt favorable, bien sûr.
Hassani connaît beaucoup de familles qui se nourrissent mal, faute d'argent. Ce type de chèque lui semble une bonne idée.
On n'arrête pas de répéter, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ça va simplement permettre à beaucoup de familles d'arriver à survivre.
Jean-Claude Didion est bénévole au restaurant du Cœur de Blois. Il est dubitatif.
Enfin, la FNSEA a pris comme exemple ce qui se pratique aux États-Unis. Aux États-Unis, ont-ils des associations comme les Restos du Cœur ou d'autres ? Je ne suis pas sûr. Nous, on a le mérite d'exister en France.
Il propose de faire différemment.
Peut-être, si vous voulez, que ces chèques soient redistribués par notre national au niveau local pour nous permettre d'acheter localement les produits qui nous manquent.
Et ensuite, les restos pourraient les remettre directement à ceux qui en ont besoin.
Un reportage de Christian Panvert.
La négligence d'un homme à l'origine de l'incendie mortel d'un immeuble à Courchevel. C'était il y a 2 ans. Le rapport des experts est accablant. On y revient dans un tout petit instant. Il est 7h06. Bonne journée. Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Il est 7h07. La suite du journal de Dominique Tenza. 2 ans après l'incendie qui a coûté la vie à 2 personnes dans un hôtel de Courchevel, RTL a eu accès au rapport d'expertise.
Et ses conclusions sont sans appel. Elles mettent très clairement en cause le propriétaire du bâtiment qui possède par ailleurs de nombreux hôtels, restaurants et bars dans cette très chic station de ski. Il avait acheté cet immeuble pour y loger ses employés saisonniers, mais n'avait jamais effectué les travaux de remise aux normes. Le bâtiment construit dans les années 50 était même officiellement fermé, considéré comme trop vétuste. André Casella est l'un des rescapés de l'incendie, il répond à Serge Puyot.
Il est clair que dans tout le bâtiment, il n'y avait que des matériaux très inflammables. Que ce soit la moquette de partout sur tous les murs, que ce soit les portes qui résistent à rien du tout. Aucune alarme incendie n'a fonctionné. Il y a eu une propagation du feu exceptionnellement rapide qui nous a piégés totalement et j'ai eu la chance de pouvoir sauter par mon balcon. J'ai le sentiment d'être un grand miraculé de ce drame. Ce qui s'est passé est vraiment scandaleux, surtout de la part d'un patron qui a autant de moyens, autant d'établissements, que ce soit à Courchevel, Saint-Tropez ou ailleurs. Il aurait pu largement mettre aux normes ce bâtiment. On a été entassés comme du bétail. C'est déplorable.
Un propos recueilli par Serge Peuillot pour RTL. L'incendie en janvier 2019, je vous le rappelle, avait fait 2 morts et 24 blessés. Le propriétaire que nous avons bien évidemment cherché à joindre n'a pas souhaité s'exprimer. À 10 jours de la fin de son mandat, Donald Trump, face à des appels à la démission de plus en plus nombreux, y compris dans son propre camp, celui des Républicains, cette nuit, la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, s'est dite prête à entamer une nouvelle procédure de destitution, d'impeachment, à l'encontre du président américain, suite évidemment aux violences du Capitole. Aux États-Unis, pour RTL, Carrie Newton.
200 parlementaires ont déjà signé ce texte d'impeachment, de mise en accusation, et la Chambre des représentants pourrait l'examiner en ce début de semaine. Les démocrates sont confiants de récolter suffisamment de soutien républicain pour aller jusqu'au bout. Nancy Pelosi avait prévenu après l'invasion du Capitole mercredi, si Donald Trump ne démissionnait pas, ou si son vice-président Mike Pence ne proposait pas de le destituer comme le lui permet le 25e amendement, alors les démocrates s'engageraient dans cet impeachment. Cependant, cette destitution ne pourra pas être décidée avant la fin du mandat du président sortant. Tant de l'enquête oblige, le Sénat ne confirmerait sa position qu'après le 20 janvier. En revanche, cela pourrait permettre aux sénateurs d'empêcher définitivement Donald Trump de se représenter à la présidence. Quoi qu'il en soit, il serait le premier président des États-Unis visé par deux procès en destitution.
Et puis, dernière défection en date pour Donald Trump cette nuit, celle des organisateurs de l'USPGA, l'un des tournois majeurs de golf qui devait se tenir l'an prochain dans le New Jersey, sur l'un des nombreux terrains appartenant au président milliardaire grand amateur de golf. L'accord vient d'être résilié. Nous l'avons appris il y a quelques minutes, le décès de Georges Pernoud, présentateur historique de l'émission Thalassa, magazine consacré à la mer, unique en son genre, dont il avait lui-même proposé le concept. Et il avait incarné l'image de ce magazine qu'il avait présenté de 1980 à 2017. 37 ans à la tête de Thalassa sur France 3 pour Georges Pernoud. Il avait 73 ans.
Il est 7h10. C'est un classement pas vraiment scientifique, disons-le, mais qui chaque année décerne le trophée des meilleures friteries en France.
Ah oui, vous savez, il y a le palmarès des meilleures cliniques, des meilleurs lycées, alors pourquoi pas les friteries, surprise. Le Nord et le Pas-de-Calais trustent 9 des 10 premières places. Et la grande gagnante cette année, c'est la Ch'tite Frite à Rayoncourt-Saint-Aulle dans le Nord. Et Antoine Decarre est allé faire un tour pour RTL.
Une grande frite, s'il vous plaît.
Les commandes s'enchaînent dans la friterie de 30 mètres carrés, pleine à craquer depuis l'annonce du prix.
C'est la première de France, donc on va goûter.
Derrière le comptoir, Philippe Mériot, le propriétaire de la Ch'tite Frite, plonge ses pommes de terre épluchées au matin dans du gras de bœuf.
Pour la digestion, c'est beaucoup mieux. Il y a un petit goût pas désagréable.
Et son secret, c'est une cuisson millimétrée.
Ici, on cuit des frites en deux bains. Dans une première cuisson à 140 degrés. On les sort de la cuisson pour les retremper en cuisson à 180 degrés. Pour avoir une frite tendre à l'intérieur et croustillante à l'extérieur.
Il y a deux ans, Philippe a quitté son boulot de menuisier pour lancer sa friterie pour le plus grand plaisir de ses fidèles clients.
L'accueil est très chaleureux et puis tout, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est des frites de Schnorr, hein.
Et dernière étape, la dégustation des frites, évidemment.
Alors attendez.
Croustillante, tout ce que j'aime. C'est la fermeté à l'extérieur et la tendresse à l'intérieur.
Et tout juste doré et généreusement servi, la Ch'tite Frite se laisse déguster. Je peux vous le certifier.
Voilà, vous nous ramenez un cornet la prochaine fois. Antoine Decarne.
Les courses,
On était dans les frites encore.
Oui, je voyais les frites. Elles ont bien Vincennes aujourd'hui.
Voilà, et les pronostics de Dominique Cordier, le 12, le 14, le 9, le 13, le 3, le 10 et le 7. La dernière minute, c'est le 9. R d'Elios.
C'était le journal de Dominique Tenza. Il est 7h12, merci d'écouter RTL La Politique avec vous, Olivier Bosse. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors que faire du temps qui reste d'ici la fin du quinquennat? Eh bien c'est la question du matin, Olivier.
Oui, et c'est cette semaine que le gouvernement devrait y apporter une réponse après un séminaire, mercredi, à l'Élysée. Le temps qui reste est court et incertain. Incertain parce que la crise sanitaire peut encore tout obstruer pendant des mois. Comme le résumait une ministre la semaine dernière, on essaye de faire autre chose et on fait autre chose, mais l'urgence du Covid occupe tout l'espace. Le temps qui reste est incertain parce que les conséquences économiques et sociales de la crise ne sont pas encore palpables. Le temps qui reste est court parce que concrètement, pour ce qui doit passer par la loi, par les assemblées, c'est déjà très encombré. Séparatisme islamiste, convention sur le climat, sécurité globale, prolongement de l'urgence sanitaire, ça laisse très peu de marge et très peu de temps pour faire autre chose. Mais pour Emmanuel Macron, l'idée même de contrainte ou l'idée de moins en faire est impossible. Ce qu'il a résumé hors micro la semaine dernière, il est très important de continuer à montrer que les choses continuent à avancer, a-t-il dit, de ne jamais perdre le fil de ce qu'on a fait.
Alors, s'il reste peu de temps, l'idée est d'en faire quoi, Olivier ?
Eh bien là, il y a des choix à faire. La réforme des retraites, par exemple, comme Bruno Le Maire ou le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, le voudraient. Ou plutôt du social, bien identifiable, comme s'occuper du grand âge, du sujet de la dépendance pour les personnes âgées, ou d'en faire beaucoup plus contre ce que l'on appelle les inégalités de destin, inégalités sociales, géographiques ou entre femmes et hommes. C'est ce qu'ont plaidé des ministres de gauche et quelques responsables de la majorité, notamment lors d'un dîner avant Noël avec Emmanuel Macron. Et vous avez aussi deux ou trois sujets, disons, bonus. Le référendum sur l'écologie, ça peut prendre du temps. La proportionnelle pour les prochaines élections législatives ou commencer à parler de la dette et comment la rembourser un jour. Je sais, ça fait beaucoup de sujets très différents, mais je vous donne la suite de ce qu'a confié Emmanuel Macron la semaine dernière. Il est très important de ne jamais perdre le fil de ce qu'on a fait, sinon On ne fait que courir après les événements et on ne règle jamais les problèmes.
Qu'est-ce que ça signifie exactement, Olivier ?
Eh bien qu'il va bien falloir, pour le chef de l'État, d'une façon ou d'une autre, dépasser la crise du Covid et se projeter sur 2022. Car les oppositions n'attendent pas, et le ton d'ailleurs s'est durci en ce début d'année. Les présidents de région ont été très sévères sur la vaccination la semaine dernière. Gérard Larcher, le président LR du Sénat, attaque dès ce week-end le bilan du quinquennat. Peu de choses auront été faites, juge-t-il dans le JDD. Anne Hidalgo, la maire de Paris, va lancer sa plateforme d'idées, comme le révèle Le Parisien. Et des proches d'Arnaud Montebourg ont eux annoncé hier le lancement d'un parti pour soutenir sa candidature. Alors il n'y a pas que la campagne de vaccination qui a commencé en ce début d'année. La campagne électorale, les campagnes électorales aussi sont lancées. Le temps qui reste d'ici la fin du quinquennat est bel et bien court et incertain.
Olivier Bosse, que l'on retrouve sur le site rtl.fr. Il est 7h16. Dans un instant, notre brigade RTL, nous partirons en Chine et nous serons avec Christophe Decroix.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h16. Il y a un an, le 11 janvier 2020, Pékin a annoncé le décès de la première victime connue du nouveau coronavirus à Wuhan, dans le centre de la Chine. La mort de cet homme sera suivie par près de 2 millions de décès à l'échelle de la planète. Bonjour Christophe Decroix.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service étranger d'RTL. Que sait-on aujourd'hui de l'origine de cette pandémie ?
Alors, on sait d'abord que la première victime était un homme de 61 ans, dont le nom reste totalement inconnu, et qu'il faisait régulièrement ses courses dans un immense marché de Wuhan, vous en souvenez, où étaient vendus des animaux sauvages vivants. Alors, s'il est clair que l'épidémie s'est manifestée pour la première fois fin 2019 sur ce marché, en revanche, il n'est pas certain qu'il soit à l'origine du nouveau coronavirus. Le fait que le virus soit très contagieux lors de son signalement signifie en fait qu'il circulait depuis déjà très longtemps.
Mais il n'y a pas eu d'enquête. Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé doit se rendre sur place.
Alors, si tout va bien, les experts devraient arriver jeudi. Mais les Chinois ont fait traîner. Ils ne voulaient pas visiblement donner le sentiment de céder à la pression de Donald Trump, qui parle tout le temps du virus chinois. Oui. Mais Pékin ne joue pas vraiment franc jeu. D'abord, il a exigé de pouvoir valider les experts. Ensuite, ils devront peut-être se soumettre à une quarantaine à leur arrivée, ce qui va encore repousser leurs travaux. Ils vont donc commencer plus d'un an après le début de la pandémie, ce qui ne facilite pas la recherche des premières traces du virus. Il n'est même pas confirmé que Wuhan soit au programme de la visite et ils ne pourront s'appuyer que sur des dossiers fournis par la Chine.
En fait, Christophe, Pékin ne veut pas qu'on dise que le pays est à l'origine de la pandémie.
Alors, la règle, vous le savez, c'est le parti, le système est infaillible. Pékin veut donc imposer des versions qui tombent les unes après les autres. On a eu le droit au virus importé par des étrangers lors des jeux militaires mondiaux de Wuhan. On a eu le droit au pangolin, désormais innocenté. Maintenant, il est suggéré que la Covid serait arrivée via des produits surgelés importés. Un virus donc de n'importe où, mais pas de Chine.
Bon, la Chine où il semble y avoir une reprise du nombre de cas.
Oui, le pays qui semblait être sorti de la crise après des épisodes de confinement drastiques voit réapparaître des signaux inquiétants. Au total, 18 millions d'habitants de la province du Hebei sont confinés. Même Pékin est désormais sous surveillance.
Merci beaucoup Christophe Decroix. Et bien justement, Pékin, allons y rejoindre notre correspondant après 6 mois d'un retour quasi normal à la vie. Avec la réouverture des écoles, des commerces et des transports publics, la capitale chinoise est à nouveau placée en état d'alerte. Écoutez ce reportage de Stéphane Pambrun.
Sur la route des stations de sport d'hiver autour de Pékin, les autoroutes à 6 voies qui traversent le Hebei sont désertes. Des policiers en tenue de protection anti-Covid barrent les principaux accès. Et sur les routes secondaires, des agents municipaux sont chargés d'empêcher les gens de rentrer et de sortir de la province après la découverte d'une centaine de nouveaux malades.
Nous sommes en état d'alerte 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité des habitants et éviter que le virus ne se répande.
Masque sur le nez face à une banderole rouge appelant au respect des règles sanitaires, ce gardien membre des comités de quartier a repris son poste, le même que l'an dernier au moment où l'épidémie faisait sa première victime officielle en Chine. À Pékin, pour l'instant, la vie reste comme suspendue. Après 6 mois d'un retour à la vie quasi normale, les districts nord de Chuny sont à nouveau isolés après la découverte de nouveaux cas venant des provinces alentours. Pékin a vite retrouvé ses habitudes, traçage, dépistage et isolement. au grand désespoir de cette jeune femme.
Je pensais vraiment que c'était fini, mais ces nouveaux cas nous ont vraiment pris de court. Pour l'instant, on peut sortir, mais je vois qu'il y a moins de monde dans les rues que la semaine dernière, par exemple. Je pense que les congés du Nouvel An chinois qui approchent vont être comme ceux de l'année dernière. On ne pourra pas voyager.
Le gouvernement chinois appelle la population à rester chez elle autant que possible et invite à la prudence. Des Pékinois disciplinés, comme ce père de famille.
Je ne m'inquiète pas trop. Tout était redevenu normal à Pékin, donc je pense que ça va aller. La seule chose, c'est de penser à bien se protéger. Il faut éviter d'être en groupe, limiter le temps où l'on est en contact avec beaucoup de gens, comme dans les transports. C'est plutôt du bon sens. Je ne m'inquiète pas, c'est pas encore trop gênant.
En attendant, Stéphane, la vie des habitants de Pékin est-elle encore à peu près normale ?
Alors à Pékin, les commerces, tout comme les cinémas, les bars et les restaurants sont toujours ouverts. Seul le port du masque est obligatoire. Et puis il y a ce fameux QR code, le code électronique de santé que l'on scanne partout où l'on se rend avec son téléphone portable. Une application de traçage plutôt bien acceptée par les Chinois, comme l'explique cette cliente d'un restaurant de Pékin.
Partout où l'on va, il faut s'enregistrer et scanner son QR code. C'est comme un certificat de bonne santé. Partout où je vais, je dois m'enregistrer pour être certaine que je n'ai pas quitté Pékin et que je ne suis pas censée être en quarantaine. Je trouve que c'est rassurant. Si quelqu'un est malade, ils peuvent retrouver tous les gens qui sont passés ici. Je me sens en sécurité et il faut se conformer à ces règles du gouvernement.
Des règles qui ont permis à la Chine de vaincre le virus. C'est ce que disait il y a quelques mois encore le président chinois. Mais le Covid-19 est toujours là, menaçant. Les médecins chinois ont déjà vacciné plus de 9 millions de personnes et à Pékin, des bâtiments entiers ont été réquisitionnés pour accélérer les vaccinations avant le nouvel an chinois dans un peu plus d'un mois. La quarantaine obligatoire pour les personnes de retour de l'étranger a été portée à Pékin de 2 à 3 semaines.
7h21, merci beaucoup Stéphane Pambrin, correspondant d'RTL en Chine. Dans un instant, Louis Bodin pour la météo, les grosses têtes et surtout notre pépite musicale signée Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
A tout de suite, je salue Louis qui est aussi avec nous.
Bonjour.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h23, on écoute notre première pépite musicale de la semaine, Anthony Martin.
Alors je vous propose une chanson bourrée de vitamines pour démarrer la semaine. Le cultissime Waterloo du groupe ABBA. C'est en feuilletant une encyclopédie que leur manager avait eu l'idée d'un texte dans lequel la défaite de Napoléon en 1815 deviendrait l'image de la capitulation amoureuse. Ils ont passé 3 mois sur cette seule chanson pour aboutir à un millefeuille musical absolument irrésistible. En 1974, le morceau a dépoussiéré le concours Eurovision, le quatuor suédois, on le sait, a gagné. Et Waterloo est devenu instantanément un tube dans toute l'Europe. Alors pour assurer la promotion dans les différents pays, eh bien le groupe ABBA s'était dépêché d'enregistrer la chanson dans plusieurs langues. En suédois, bien sûr, en allemand. Et 10 jours après leur victoire à l'Eurovision, eh bien le groupe ABBA débarquait à Paris pour enregistrer une version en français.
Ah bon ?
Oui, le 45 tours est sorti en mai 74 et il vaut le détour. C'est notre pépite du jour. Le groupe ABBA chante Waterloo en français. Collector, Agnetha, Björn, Benny et Anna Frid, le groupe ABBA et sa version française de Waterloo. C'est Alain Boublil, leur éditeur en France à l'époque, qui s'était chargé de la traduction des paroles. Plus tard, il écrira le livret de la comédie musicale Les Misérables. Il est resté fidèle à l'esprit d'origine du texte d'ABBA.
Waterloo, la version française, officiellement enregistrée par ABBA.
Oui.
De Waterloo. Merci beaucoup, Anthony Martin. C'était notre première pépite de la semaine. On se retrouve demain matin.
À demain.
Nos grosses têtes sont de retour, elles aussi, avec Laurent Ruquier, cet après-midi, dès 15h30. Et ce matin, on va rire avec ce coup de gueule d'Isabelle Mergo sur la consommation excessive d'alcool.
Non, mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui boivent beaucoup. Tu sens bien qu'ils sont bourrés et qui mettent leur point d'honneur à montrer qu'ils ne sont pas ivres. Et donc, c'est quoi leur truc? C'est à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils sont tout contents d'être bourrés et de pas montrer qu'ils sont...
C'est quand même
l'intérêt,
bien.
C'est quand même de monter sur les tables.
Bah non, c'est quand même bien de rester digne, mademoiselle Mergo.
Oui. Mais pourquoi ils boivent, quand vous buvez,
on le voit tout de suite.
Ah oui, ah bah non, moi je chante, voilà. C'est... Ah
ouais, tu te souviens après la représentation.
Mais non, l'intérêt, c'est d'avoir honte le lendemain pour comme ça te bien
vous
se calmer.
Je ne vous ai jamais vu avoir honte le lendemain.
Parce que vous n'avez jamais vu le lendemain.
L'intérêt, c'est d'avoir honte le lendemain. On retrouve Laurent Ruquier de 15h30 à 18h avec Jean-Marie Bigard, Stéphane Plaza, Valérie Trierweiler, Franck Ferrand, Florian Gazan et Karine Lemarchand. Karine qui sera d'ailleurs notre invitée, je vous le rappelle, dans une heure pour nous présenter son nouveau programme Opération Renaissance, diffusé ce soir à 21h sur M6. Cher Louis Baudin, bonjour.
Bonjour Yves. Bonjour.
Notre météo reste fraîche, évidemment.
Oui, froide même, on peut le dire. Hein. J'ai trouvé à moins 14 à Chamonix en ce moment, moins 11 à Briançon. D'accord, on est un peu en altitude, mais quand même. Moins 11 à Aurillac, à Luxeuil, moins 10 à Colmar, moins 9 à Rodez, moins 7 à Romorantin, moins 4 à Bordeaux ou encore du côté de Lyon. Ça gèle également près de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce que dans le sud, le ciel s'est dégagé. Fini l'épisode de neige. Retour du soleil ce matin sur les Pyrénées, Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur. On avait encore quelques flocons hier soir. Mais là, c'est le retour du soleil avec l'aide du Mistral de la Tramontagne qui atteindront 80 km/h cet après-midi. Ça va se dégager encore plus vite. Il n'y a que sur l'ouest de la Corse où il restera quelques averses. Pendant ce temps-là, dans la moitié nord, c'est l'inverse. Ça se gâte. Nous, après le soleil d'hier, on va retrouver un ciel nuageux, alors principalement au nord de la Loire, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, du Val-de-Loire à l'Île-de-France et à la Champagne, ça va être de plus en plus nuageux. Puis il y aura une petite zone intermédiaire de l'Aquitaine jusqu'au nord-est, où là ça sera en gros moitié nuage, moitié soleil. Alors après ces fortes gelées matinales, bien ça restera froid cet après-midi, 1 à 5 degrés, encore une journée froide dans la plupart des régions. Ça remontera un petit peu sur la Bretagne, déjà près de la Manche, avec 6 à 8, 9 degrés, on revient à des valeurs de saison, et 6 à 10 degrés également près de la Méditerranée.
On a vu des images quand même très impressionnantes en Espagne.
Oui.
Ce temps froid, cette neige et cette forme de glaciation, Madrid en particulier, hein, ça va durer ?
Ça va durer, hein, c'est-à-dire qu'après l'épisode de neige, effectivement, on a toujours un courant de nord qui s'est installé et donc ça veut dire des températures qui vont rester négatives au moins pour les trois jours qui arrivent. Donc la neige va se figer et elle va persister au moins jusqu'à jeudi ou vendredi où là ça devrait petit à petit quand même fondre.
En ce qui nous concerne, nous, ce temps froid qui est installé, moi j'aime bien la fraîcheur, Isabelle Morin Bosco aussi, qui est d'ores et déjà avec nous, elle est ravie. Mais ça va durer combien de temps ?
Ah ben, ça va durer. Alors, ça va s'atténuer un tout petit peu entre mardi et jeudi avec des perturbations océaniques, mais l'air froid sera toujours dans les parages. Et pour la fin de semaine, je vous reparlerai de froid, de neige à basse altitude et voire jusqu'en plaine. Donc, on n'en a pas fini avec le froid.
Merci beaucoup pour ce point très complet. Louis Baudin, RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 11 janvier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et une question ce matin, la France va-t-elle être rattrapée à son tour par le variant anglais du Covid-19 ? La situation est particulièrement préoccupante à Marseille. 7 nouveaux cas ont été détectés, autrement dit 8 en tout au sein d'un cluster familial. Les recherches se poursuivent pour savoir s'il y en a d'autres. Ce virus mutant est 50 à 70% plus contagieux que l'original. On redoute donc un nouvel emballement épidémique. Et on scrute plus que jamais les eaux usées qui reflètent la progression du virus avec environ une semaine d'avance. Les dernières données sont plutôt mauvaises, comme l'explique Vincent Maréchal, il est virologue.
Nous avons des prélèvements qui indiquent à nouveau une quantité plus importante de génome viral dans les eaux usées, c'est-à-dire que le virus circule de façon active. Les analyses qu'on a pu faire dans plusieurs villes de région PACA semblent indiquer un rebond dans une situation dans laquelle le virus circulait déjà beaucoup. Ce qui est peut-être un peu plus préoccupant qu'un rebond quand le virus n'est pas là, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'échanges de virus pendant les vacances d'hiver. La question est de savoir si ça va s'inscrire dans une durée. Personnellement, j'ai tendance à croire malheureusement qu'on annonce une recirculation du virus.
Le variant anglais a aussi été signalé en région parisienne et en Savoie. Alors, vu la situation, la jauge imposée dans les lycées sera sûrement prolongée au-delà du 20 janvier. C'est ce qu'a indiqué Jean-Michel Blanquer hier au grand jury RTL Le Figaro LCI. En revanche, pas question de rallonger les vacances de février. Et le ministre de l'Éducation refuse d'envisager pour l'instant un report des épreuves anticipées du bac prévu en mars. C'est l'une des nouveautés de la réforme du bac.
Un des éléments de l'esprit de cette réforme, c'est d'éviter ensuite l'échec dans l'enseignement supérieur. Et donc, la note obtenue en mars peut être prise en compte dans Parcoursup. C'est pourquoi nous le maintenons en mars. Donc, nous regarderons dans les semaines qui précèdent ce qui est prévisible sur le plan épidémique. Mais à ce stade, nous maintenons le mois de mars dans l'intérêt des élèves.
Jean-Michel Blanquer au grand jury RTL Le Figaro LCI hier.
7h32 aux États-Unis après les violences au Capitole. Donald Trump est désormais menacé d'une deuxième procédure de destitution.
Oui, ce serait totalement inédit dans l'histoire du pays. Les démocrates sont dans les starting blocks. Ils vont demander dès aujourd'hui au vice-président Mike Pence de déclarer Donald Trump inapte. Et s'il refuse, eh bien, ils lanceront eux-mêmes la procédure. L'acte d'accusation est déjà rédigé. Donald Trump est contesté dans son propre camp aussi. Écoutez la charge très sévère d'Arnold Schwarzenegger, ancien acteur. Mais aussi ancien gouverneur de Californie.
J'ai grandi en Autriche, avec la mémoire de la nuit de cristal, une nuit de 1938 où la violence est déchaînée contre les juifs, des saccages perpétrés par l'équivalent nazi des Proud Boys. Ceux qui ont investi le Capitole n'ont pas seulement cassé les vitres d'un bâtiment, ils ont attaqué les principes fondateurs de notre pays. Le président Trump est un dirigeant raté qui restera dans l'histoire comme le pire des présidents. Heureusement, très bientôt, il n'aura pas plus d'intérêt qu'un vieux tweet.
Arnold Schwarzenegger et de plus en plus de voix s'élèvent chez les Républicains pour demander à Donald Trump de démissionner. Retour en France, il y a presque deux ans, le 20 janvier 2019, un incendie dans un immeuble de Courchevel avait coûté la vie à deux travailleurs saisonniers. Aujourd'hui, et c'est une information RTL, un rapport d'expertise accable le propriétaire de l'immeuble. En effet, cet ancien hôtel vétuste n'était pas aux normes anti-incendie et pire encore, il était officiellement fermé depuis 10 ans après un avis défavorable de la commission de sécurité. C'était une promesse d'Emmanuel Macron devant la Convention citoyenne pour le climat, instaurer un chèque alimentaire pour permettre aux ménages les plus modestes d'acheter des produits frais. Pour Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, c'est plus efficace que de baisser simplement le prix des denrées agricoles.
Nous avons regardé ce qui se passe avec les food stamps aux États-Unis où des bons alimentaires sont donnés aux plus nécessiteux. Il y a chaque année des euros de l'Union européenne avec le Fonds européen d'aide alimentaire. C'est cette année plus de 400 millions d'euros et nous souhaitons que ces chèques alimentaires soit priorisé vers des produits français frais et locaux.
Christiane Lambert au micro RTL de Virginie Garin. Paris redevient aujourd'hui la capitale de l'environnement avec le sommet One Planet consacré à la biodiversité. Pour cette quatrième édition, une trentaine de personnalités ont été conviées, dont les principaux dirigeants européens, mais aussi le prince Charles ou le secrétaire général de l'ONU.
7h34, sur le Vendée Globe, les skippers sont menacés de rationnement.
Les stocks de provisions commencent à baisser. En effet, depuis le départ, ils ne sont pas gâtés par la météo, pas assez de vent. La tête de la course vient de passer le Cap Horn avec 8 jours de retard sur le record d'Armel Lecléache en 2017. Alors Charlie Dalin, actuellement deuxième, économise ses stocks.
En toute transparence, j'ai 76 jours de nourriture à bord. Du coup, voilà, dans les sacs que j'ai déjà utilisés, on va dire, et bah, il me reste encore pas mal de choses à manger. Donc voilà, je devrais m'en sortir.
Charlie Dalin, deuxième du Vendée Globe au micro RTL de Valentin Boisset. Puis, on l'a appris il y a une demi-heure à peine, c'est un grand amoureux de la mer et du Vendée Globe qui vient de mourir, Georges Pernoud. Il avait 73 ans. Pendant plus de 40 ans, il a présenté sur France 3 Thalassa, le magazine de la mer, une émission qu'il avait créée.
Un jour, il y a une feuille de tournage qui est tombée. C'était un skipper de bateau qui allait participer au premier tour du monde en équipage. Il fallait être caméraman et célibataire. Et en rentrant de cette épreuve de 5 jours quand même, je me suis mis à travailler un peu sur la mer et l'océan et je me suis rendu compte que 2/3 du monde vivaient de la mer. Alors là, je me suis dit, ça fait un beau terrain de jeu.
Un terrain de jeu qu'il a arpenté pendant 4 décennies, Isabelle Morini-Bosque.
Oui, j'aimais profondément Georges Pernoud, l'un des hommes les plus authentiques et les plus drôles que j'ai jamais rencontré à la télévision sous des dehors faussement rudes et rugueux et qui détient toujours le record de l'animateur français ayant la plus grande longévité à la tête d'une émission de télévision française d'une famille de journalistes. On plaisantait souvent tous les deux sur le fait que l'une de ses tantes, Laurence Pernoud, avait aidé des générations de mères à élever leur enfant avec son manuel sans cesse réédité « J'élève mon enfant ». Je suis marquée décidément par les mères, me disait-il en riant. La mère, sans eux à la fin, il l'a passionnément aimé dès ses débuts en 68 comme cadreur à l'ORTF, mais il reste bien sûr à jamais comme le producteur animateur de Faut pas rêver dès 1990 et surtout, bien sûr, de Thalassa, magazine dont il a eu l'idée dès 1975, on l'a entendu, alors qu'il était caméraman sur une course à la voile. En 2017, il m'a simplement dit à l'issue de la conférence hommage, un peu douloureuse, organisée par France Télévisions pour son départ, voilà, je mets les voiles. Oui, mais sans avoir jamais touché le fond, répondu spontanément à leur titouant Lamazou en leur mettant son portrait, et le ministre Le Drian, qui avait ostensiblement tenu à être présent ce jour-là pour ses adieux, ça l'avait fait rire une dernière fois.
Merci Isabelle Morini-Bosque.
On adresse nos pensées bien entendu à sa famille. C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une, Isabelle.
Oui, et je vous raconterai comment André Malraux, ministre de la Culture de Gaulle, a fait de la prison après avoir joué à Indiana Jones.
Tiens, tiens, tiens. À tout à l'heure. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
C'est l'opportunisme des GAFA qui retient votre attention ce soir.
Oui, Yves, ces géants du numérique ont décidé de sévir en coupant les comptes du président Trump au bout de 4 ans. Est-ce qu'il n'était pas un peu tard pour agir? Quelle est la véritable motivation de ces monstres? On en parle dans un instant.
Je crois qu'on a déjà un élément de réponse. À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h39, l'Anglais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Impensable, ce week-end, les géants de la technologie américaine ont carrément fermé les comptes du président Trump sur les réseaux sociaux.
C'est Twitter qui a annoncé la fermeture permanente du principal moyen de communication de Donald Trump, sur lequel il publie une quarantaine de messages chaque jour. Hier, Amazon et Apple ont annoncé de leur côté qu'ils suspendaient le réseau Parler, fort prisé des conservateurs extrémistes, alors que Google avait fait la même chose peu avant. Mmh. Avec un bel élan, ces tartuffes volent au secours de la victoire. Trump est battu par Biden, on le frappe, après l'avoir laissé éructer pendant des années, tout en laissant en ligne, par exemple, le compte de Duterte, le chef de l'État philippin, qui explique qu'il a tué lui-même des narcotrafiquants de ses mains, ou celui d'un grand démocrate comme Ali Khamenei, chef de l'État iranien. En réalité, il s'agit d'une censure sélective et intéressée.
Alors sélective, on l'a compris, intéressée pourquoi, François?
Parce que c'est un gage donné à la nouvelle administration de Joe Biden, et plus encore à la majorité démocrate. Vu de chez les GAFA, c'est Google, Apple et les autres, le changement de majorité au Sénat en faveur des démocrates qui s'est produit la semaine dernière avec des élections partielles, c'est une mauvaise nouvelle. Parce qu'il va faire monter la pression sur les monopoles privés de la Silicon Valley. Des monopoles que l'épidémie a rendus encore plus puissants et encore plus rentables. En octobre dernier, 13 parlementaires avaient publié un rapport très complet militant pour le démantèlement de ces GAFA au nom de la juste concurrence. Ils proposaient l'interdiction des rachats de start-up par les Facebook, Google et autres, à moins de prouver que ça n'était pas préjudiciable aux concurrents, ou bien d'interdire à ces monstres de donner la préférence à leurs propres produits, ou encore de les couper en morceaux, et puis d'isoler le trésor, la gestion des données personnelles, pour le partager avec la concurrence.
Est-ce qu'au plan juridique, François, une telle révolution est possible?
Oui, au nom du Sherman Act, qui date de la fin du 19e siècle et qui autorise le démantèlement pour des raisons de concurrence. Les États-Unis ont ainsi coupé en morceaux la Standard Oil, c'est une compagnie pétrolière surpuissante dans les années 1910, ou encore le monopole téléphonique d'AT&T, plus récemment c'était les années 80. Et les démocrates sont très en pointe sur ce sujet, ils veulent renforcer la doctrine.
De quelle manière?
En fait, dans les dernières décennies, l'antitrust basait ses actions sur un seul critère, le prix pour le consommateur. Mmh. Et le problème, c'est que les services des GAFA, un compte Facebook ou une recherche Google, bah, c'est gratuit, en apparence au moins. Pas moyen de les attaquer par ce biais. Certains économistes, suivis justement par des parlementaires démocrates comme Elizabeth Warren, militent pour revenir à l'esprit initial du Sherman Act, en élargissant les critères, à cause du risque politique que fait peser un monopole. Joe Biden, le nouveau président, pourrait d'ailleurs nommer ce qu'il appelle un tsar de la concurrence, super patron de toutes les administrations concernées. Et en attendant, les actions juridiques se multiplient à l'encontre des GAFA, aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Inde, au Brésil, au Royaume-Uni. Après l'année bénie qui a été 2020 pour les GAFA, 2021 pourrait être beaucoup moins clément.
Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site RTL.fr. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
2020 a été l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées avec toutes les conséquences que l'on connaît sur l'environnement, sur les maladies. Ce sera le sujet du sommet pour la planète organisé par la France aujourd'hui. Et pour l'occasion, j'ai invité Nathan Métainier. Il a 21 ans et il a été choisi par l'ONU pour devenir l'un des jeunes conseillers pour le climat du secrétaire général Antonio Guterres.
On retrouve Nathan Métainier dans un instant sur notre antenne avec vous.
RTL Matin avec Yves Calvi.
RTL, il est 7h45. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Nathan Métainier, qui est conseiller climat de la France à l'Organisation des Nations Unies.
Bonjour Nathan Métainier.
Bonjour.
Alors la France organise aujourd'hui le One Planet Summit, le sommet pour la planète consacré à la biodiversité avec 30 personnalités. Cela va du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres au prince Charles en passant par Angela Merkel ou Justin Trudeau. On sait que le réchauffement climatique, la déforestation, des conséquences sur la nature qui nous entoure et sur les pandémies qui nous menacent. Nathan Métainier, avant d'entrer dans le vif du sujet, je le disais, vous avez 21 ans à peine. À quel âge et qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de la fragilité de la nature ?
Voilà, se rendre compte de la destruction, comme vous le disiez, de la nature, de voir qu'en fait les changements climatiques ont déjà commencé à se passer.
Mais comment vous l'avez vu,
en France ? Moi, j'habite à Grenoble, dans les Alpes, où le climat est deux fois plus fou qu'à l'heure, où les glaciers fondent et où aussi la pollution fait des ravages, parce que ici, par exemple, à Grenoble, c'est plus de 100 personnes par an qui meurent de la pollution de l'air.
Et vous avez milité tout petit ou ce sont vos parents qui vous ont éveillé à cela ?
Se rendre compte de son environnement et puis ensuite se dire qu'il faut faire quelque chose. Et puis cette grande frustration, en fait, que nos dirigeants ne font rien. Et on voit bien que les sommets se succèdent, on en entend parler tout le temps sur le climat, sur la biodiversité, les plans de relance, etc. Or, tout ça, c'est pas à la hauteur. Et c'est bien pour ça que nous, les jeunes, en tant que mouvement, en tant que parfois étudiants, jeunes professionnels, parfois aussi plus jeunes encore, qui peuvent être des lycéens ou des collégiens, on se mobilise pour dire c'est pas possible, il faut plus d'action et puis surtout plus d'ambition.
Vous êtes une sorte de Greta Thunberg ?
Non,
on peut dire
non,
ça ?
Non, pas Greta Thunberg, mais ce qui est sûr, c'est que Greta Thunberg, elle a vraiment montré qu'on était une grande communauté, qu'en fait, il y avait des jeunes dans le monde entier. Et je dis bien dans le monde entier parce que c'est pas juste dans l'Europe de l'Ouest, dans nos pays, mais c'est dans le monde entier. On a un mouvement sur tous les pays. Et qu'en fait, on vivait tous cette frustration, qu'on l'a partagée et qu'ensemble, on peut faire bouger nos dirigeants si on fait pression sur eux.
Alors, votre rôle, c'est de faire pression sur eux. De quelle manière, Nathan Métainier ?
Nous, en fait, on est à la fois un écosystème, donc c'est-à-dire qu'on va dans la rue, et ça, on l'a bien vu, c'est toutes les manifestations, faire pression, etc. Mais il y a aussi un travail qui est un petit peu moins connu, qui est des jeunes, des associations de jeunesse, c'est-à-dire des associations qui sont gérées par des jeunes, qui vont parler avec les gouvernements, avec, par exemple, ça peut être aussi des dirigeants d'entreprises, mais aussi parfois des leaders du monde de la société civile, pour leur dire, nous, on est là, parce qu'on a entre 18 et 25 ans, on doit avoir aussi notre mot à dire sur les questions environnementales, parce qu'en 2050, nous, on aura 50 ans, donc on devrait pouvoir avoir...
Et vous serez mort, c'est ça que vous leur dites ? Nous, on aura 50 ans et vous serez mort ?
À part si on trouve une petite solution pour faire le contraire. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on sera justement en mesure de pouvoir... on sera ceux qui vivront les conséquences de l'action ou de l'inaction des politiques actuelles.
Mais alors sur quoi ? Qu'est-ce qui vous semble primordial ?
Vous avez parlé du One Planet Summit, je pense que ça c'est très très important. La biodiversité, on en parle très peu, et pourtant on a perdu 70% de vertébrés entre 1970 et 2016.
Des vertébrés, oui.
Il y a des enjeux qui sont extrêmement importants. Mais surtout, là, dans les questions des plans de relance, et on en parle tout le temps, c'est très très important qu'il y ait une plus grande partie qui soit pour les emplois verts. Il y a un super rapport McKinsey qui a été publié il y a quelques semaines qui montre qu'en Europe, si on investit dans les jobs verts et la transition, c'est 5 millions de jobs. Donc ça, c'est pour tout le monde, ça c'est pour la société. Ça montre bien que si on investit là-dedans, on peut faire redémarrer l'économie. On peut justement parvenir à une transition qui soit davantage juste et surtout soucieuse de l'environnement. Mais surtout, nous, ce qu'on essaye d'interpeller, sur lequel on essaye d'interpeller les gouvernements, c'est de ne pas renflouer les entreprises, notamment les plus polluantes, donc ça peut être les constructeurs automobiles, sans conditionnalité. C'est-à-dire que oui, il faut absolument renflouer pour pas qu'il y ait des millions et des millions de personnes qui se retrouvent sans emploi, mais il faut le faire sous condition que ces entreprises ensuite vont respecter davantage l'environnement et puis aussi soient davantage justes avec leurs employés dans leurs entreprises.
Une contrepartie. Exactement. Le gouvernement français qui met 30 millions sur la table consacrés au verdissement de l'économie dans les plans de relance, ça vous paraît suffisant ou pas ?
Et puis, il faut regarder ça aussi en rapport avec la Convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire que déjà, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant aussi parce qu'il n'y a pas de constitutionnalité, justement. Mais aussi parce que ça s'est fait dans le contexte d'une Convention citoyenne pour le climat. Et c'est important d'en parler parce que c'est la première fois qu'on met ensemble des gens, qu'on les sélectionne aléatoirement, qu'on essaye justement d'avoir une représentation de la société civile. Et au moment, à l'heure où on dit toujours que les politiciens ne représentent pas ce genre d'initiative, je crois quand même que ça nous montre que voilà, on peut aussi faire d'autres formes de démocratie. Et pourtant, ce texte, ces 150 propositions qui ont été créées par nous, par en fait la population, une bonne représentativité, ce texte, il a été tout détricoté. Les 150
En partie détricoté.
Et il y a des choses qui sont assez inquiétantes, par exemple le fait qu'il n'y ait pas d'interdiction des pubs qui font la promo des gros 4x4 dans les villes, comme si ça, c'était soutenable à l'heure actuelle, ou encore sur le transport aérien, par exemple, où en fait les citoyens de la Convention demandaient qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait plus d'avion quand il y a une alternative en train sur 4 heures, et puis le gouvernement a décidé 2h30. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui montrent que cette convention n'a pas été tout à fait respectée. Voilà.
Nathan Métainier, ça ne vous paraît pas un peu utopique de penser que les volontés de 150 citoyens vont s'appliquer comme ça d'un coup de baguette magique? Enfin, vous avez bien vu ce que ça a produit, une taxe carbone, ça a produit les gilets jaunes. Tout le monde ne peut pas ne pas rouler au diesel, tout le monde ne peut pas s'acheter une voiture écologique.
Et comment on peut dire aux Français, on va taxer votre voiture, on va taxer vos déplacements, sans vous dire comment cet argent va être utilisé après? Or, je pense quand même que c'est notre droit de citoyen de pouvoir savoir comment justement les taxes vont pouvoir être utilisées, mais surtout sans essayer de dire, regardez, déjà, si on taxe, on va déjà pouvoir réinvestir tant dans les trains. On va pouvoir investir tant dans les mobilités douces, on va pouvoir investir tant dans les mobilités durables au niveau local. Et c'est ce qui a été fait dans plusieurs pays, c'est ce
mais
qui a été fait en Suède.
La taxe, vous savez bien que on ne parle que de ça, de taxer sans arrêt. C'est-à-dire que on a l'impression que l'écologie, si elle n'est pas punitive, au fond, on n'avance pas.
Ça, c'est tout à fait vrai. Je pense que justement, la Convention citoyenne pour le climat, ce qu'elle nous a montré, c'était cette idée de dire, construisons ensemble. Regardons un petit peu toutes les mesures et voyons justement sur quoi on peut, plutôt que taxer, plutôt que punir, on peut aider. Et par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est un très bon exemple. C'est cette idée selon laquelle on peut réduire énormément de notre consommation si l'État, si les collectivités territoriales qui le peuvent, aident à la rénovation des bâtiments. Et justement, ça, c'est une écologie non pas punitive, mais une écologie de l'avenir, une écologie qui vient pour justement aider les citoyens pour faire leur transition. Et puis surtout, si on manque si cruellement d'argent, au lieu de taxer de cette manière-là, on taxe par exemple les 1% des plus riches qui possèdent bien plus de ressources que les 99% restants.
Votre rôle, c'est de faire changer les comportements, Nathan Métainier. Puisqu'on parle de biodiversité, qu'est-ce que vous dites, vous, aux jeunes? Comment les sensibiliser à l'urgence? Est-ce que vous leur dites de poser leur téléphone portable de temps en temps, d'arrêter de prendre des douches de 10 minutes ou de ne plus prendre l'avion?
Moi, je dis aux jeunes, écrivez à vos gouvernements, écrivez à vos députés, écrivez aux décideurs qui vous entourent et dites-leur d'agir. Dites-leur d'agir parce que notre futur est menacé. Mmh. Et donc, c'est pas justement sur ces paroles de gouvernement qui nous disent de faire des efforts tout le temps, que c'est nous qui sommes responsables. Ceux qui sont responsables, ce sont les grandes entreprises. Ceux qui sont responsables, ce sont les cabinets de conseil.
On n'est pas chacun responsable
Bien sûr qu'on est responsable, mais par exemple, quand le gouvernement britannique, qui est en train de préparer la COP26, c'est-à-dire la grande conférence, le grand sommet sur le climat qui arrivera en 2022, demande à une boîte de conseil, justement qui conseille 19 des 25 plus grandes entreprises qui travaillent sur les énergies fossiles, de préparer et d'organiser ce sommet, c'est ce genre de choses sur lesquelles on doit dire à nos gouvernements, c'est pas possible que vous continuez de faire cela. C'est pas possible que vous continuez de faire appel soit à des entreprises, soit de faire des coopérations avec ces entreprises qui, elles, sont responsables. Donc moi, d'abord, mon point d'interpellation, il est sur les grandes entreprises qui polluent, il est sur les gouvernements qui font pas suffisamment.
Donc créer des délits d'écocide.
Bien sûr, pourquoi pas. Bien sûr, parce que...
C'est-à-dire sanctionner les entreprises qui polluent ou qui mettent en danger l'environnement.
Tout à fait. Et on rencontrera le secrétaire général des Nations Unies avec les six autres activistes qui sont répartis dans le monde entier, qui font partie de ce
groupe. Six autres jeunes, oui, jeunes conseillers.
C'est
oui.
ça. On le dira au secrétaire général. Pour nous, c'est absolument rapidement. Essentiel que ce soit inscrit dans la loi.
Rapidement, il faut inscrire la question climatique dans la Constitution.
Oui, oui, rapidement. Il le faut, mais ce sont quand même des solutions symboliques. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est des choses fortes. C'est d'aller vraiment taxer les entreprises qui polluent. C'est de faire des plans de relance qui investissent dans la transition énergétique. C'est comme ça qu'on parviendra à une transition sociale et juste.
Merci beaucoup Nathan Métainier. Et merci à Serge Puyot qui a assuré pour nous la liaison technique.
La jeune génération sera celle qui subira les décisions ou l'inaction de nos dirigeants dans le domaine de l'environnement et du climat, vient de nous dire notamment Nathan Métainier, qui est conseiller climat de la France à l'ONU. Merci beaucoup à l'un et à l'autre d'avoir mené cet entretien qu'on retrouve sur le site RTL.fr. Et dans un instant, M. Cyprien Sini va surfer sur le nouvel arrêt maladie.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Ben dites-moi, on n'est pas en avance, hein, vous surfez non. avec le nouvel arrêt de travail.
Mesdames, messieurs, la France. Que dis-je, la France? Le génie français.
Oui.
Et le génie français a encore frappé. Vous connaissez désormais tous cette grande tendance du moment, le fameux
Do it yourself. En français, faites-le vous-même.
Le do it yourself, cette mode de tout faire soi-même.
Aude fait elle-même à peu près tout ce qu'on trouve dans les placards d'une maison.
Des bijoux à faire moi-même.
Faire soi-même ses cosmétiques. Fabriquer son savon soi-même.
Faire soi-même ses médicaments.
Oui, alors pour les médicaments, on recommande pas, mais sinon cosmétiques, bricolage, produits d'entretien. En mars dernier, le gouvernement y est même allé lui aussi de son do it yourself, souvenez-vous.
Chaque personne, pour chaque déplacement, devra se munir d'un document attestant sur l'honneur, le motif de son déplacement.
L'attestation à faire soi-même pour pouvoir sortir dans la rue. On s'auto-autorise à sortir. Et bien depuis hier, un nouveau pas a été franchi, car désormais il y a...
Dès que vous avez des symptômes ou que vous êtes cas contact, il vous suffira de vous inscrire sur le site de l'assurance maladie pour obtenir un arrêt de travail immédiat indemnisé sans jour de carence.
Oui, mesdames, messieurs, l'auto-arrêt maladie et 100 jours de carence en plus. Vous en rêviez, le docteur Castex l'a fait, l'arrêt de travail à faire soi-même. Pas besoin de médecin, rien, sur le papier, vous avez un doute Covid et hop.
Vous allez sur le site, vous vous engagez à passer un test dans les deux jours et vous obtenez alors un justificatif d'absence à communiquer à votre employeur.
Et emballé, c'est pesé, décidément.
Le bonheur, c'est simple. Comme un coup de clic.
Et voilà, le travail formidable. Hein. Alors évidemment, le but, incroyable. C'est que si vous êtes malade du Covid, vous ne preniez pas le moindre risque et que vous ne contaminiez personne. Mais alors bizarrement, hein, l'arrêt de travail à faire soi-même, il ne le sent pas du tout le patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises, François Asselin.
Je me réveille, j'ai le nez qui coule, j'appelle mon employeur en disant, écoutez, voilà, j'ai un symptôme et du coup, je me mets en arrêt maladie. Pas de délai de carence, donc effectivement, ça peut être très tentant. On peut craindre qu'il y ait quelques dérives.
Oh, des dérives, allons bon, pourquoi il dit ça?
Des arrêts maladie. Toujours plus fréquent.
Les Français abusent-ils des arrêts de travail?
Les arrêts de travail explosent.
Pop, tout de suite. En plus, là, attention, il y aura des contrôles quand même. Hein.
L'assurance maladie procédera à un suivi systématique avec 2 à 3 appels téléphoniques sur 7 jours.
Ah bah là, c'est sûr que oui. S'il y a un gars de la Sécu qui appelle 2 fois dans la semaine, ça va refroidir les resquilleurs. Après, je doute que le sens du devoir et le civisme qui nous caractérise, nous les Français, fera de l'auto-arrêt maladie l'avenir de la Sécu.
Cyprien Sini, RTL, il est 8h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la traque.
La traque au variant anglais du coronavirus. Les derniers tests positifs seront analysés sur tout le territoire et à Roubaix, les habitants sont appelés à se faire dépister. Nous serons sur place. 2 ans après l'incendie de Courchevel qui avait fait 2 morts, le propriétaire de l'immeuble dans le viseur. C'est une information RTL. Et puis le créateur de Thalassa a rejoint le Grand Bleu. Georges Pernoud est mort à 73 ans.
RTL Matin.
Mais tout d'abord, quand Papy fait de la résistance au coronavirus, à Blagnac, en Haute-Garonne, ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 97 ans, vient de remporter sa 2e bataille contre le virus, après avoir passé plus d'un mois à l'hôpital, Patrick Tégéro.
En fait, la Covid n'aurait été qu'un tout petit épisode dans la vie bien remplie de Maurice Théboul.
J'ai fait la guerre quand même, hein. J'ai participé au débarquement. Après, j'ai fait la poche de Royan. Je suis rentré un des premiers dans Paris. J'ai des photos avec la 2e DB, la division Leclerc. Hein. Ah, le plus difficile, ça a été la guerre, bien sûr.
Au retour d'un voyage à Paris, Maurice consulte son médecin.
Il a vu quelque chose qui n'allait pas. Je suis arrivé à Purpan, ils m'ont fait des analyses et dit, vous commencez à voir le virus, hein. Ils m'ont soigné bien comme il faut.
Le seul désagrément qu'il a ressenti, Maurice, c'est qu'il a fallu qu'il reste enfermé dans sa chambre d'hôpital pendant un mois et sans télévision.
J'ai demandé à faire un peu de culture physique et j'en ai fait pendant 8-10 jours et puis je suis sorti impeccable. L'économie du pays, c'est catastrophique. J'ai un voisin ici, il travaille à Airbus, eh bien, il travaille pas. Il est chez lui mais il touche la paye jusqu'à quand ça va aller.
Et il a un petit conseil pour nos auditeurs.
Si vous avez de la fièvre, allez voir tout de suite votre médecin qui vous envoie directement dans un hôpital. Et là, ils vont vous soigner. Non, non, il ne faut pas traîner.
Voilà le conseil de ce vétéran de 97 ans au micro RTL de Patrick Tégéro. À Marseille, c'est la nouvelle version du virus, le variant anglais, qui inquiète les autorités. 8 personnes contaminées dans une même famille. Épreuve que la situation s'aggrave sur place. L'analyse des eaux usées, qui est un précieux indicateur, montre que l'épidémie reprend de la vigueur depuis les fêtes. Ces analyses sont faites par les marins pompiers, le contre-amiral Patrick Augy avec Étienne Baudu.
Avant Noël et pendant toutes les vacances de Noël, le virus circulait faiblement dans notre ville. La carte était verte et depuis la rentrée, elle apparaît maintenant avec 13 zones sur 37 qui sont en circulation beaucoup plus élevée. Les conséquences, c'est sans doute un pic épidémique que l'on a devant nous dans les 10 jours.
Objectif donc pour tenter d'éviter un reconfinement à l'anglaise, stopper la propagation de ce variant le plus tôt possible. C'est le but de cette campagne massive de tests qui commence aujourd'hui à Roubaix. Écoutez ce reportage de Franck Hanson.
Avec leur tract Roubaix sans Covid à la sortie des écoles, Fatia et ses ambassadeurs ont des arguments pour sensibiliser les habitants.
C'est très rapide, tu vas voir, en 10 minutes c'est fait.
Il y a 6 lieux qui vont ouvrir et donc n'hésitez pas à y aller.
Jamais.
Pour le dépistage, vous avez déjà été.
Non,
vous savez qu'il y a un virus en mutation. La contamination va se faire de plus en plus rapidement. Vous le savez pas ça?
Tu peux rien d'aller te tester.
J'ai eu le Covid.
Ah,
moi je l'ai eu, mon mari l'a eu.
Ah, le dépistage, je vais le faire.
Le vaccin, je suis un peu réticente.
C'est trop tôt.
La traque du virus et ses variants restent à leurs yeux essentiels.
Le danger est là et peut-être qu'il est plus grave qu'avant. Et donc du coup, on va doubler de vigilance.
Des centres de dépistage dans tous les quartiers avec un accompagnement plus poussé. La recherche du variant anglais n'a pas d'incidence pour les personnes testées, confirme Aline Quevru de l'ARS des Hauts-de-France.
Il y aura dans un second temps un retraitement des échantillons qui vont permettre d'être séquencés pour pouvoir rechercher la forme de variant du virus. C'est assez neutre pour la personne. L'important, c'est de pouvoir lui proposer un accompagnement.
Les habitants pourront bénéficier de 2 tests, PCR et antigéniques, pour des résultats plus rapides.
Bon, merci, protégez-vous.
Franck Hanson, au niveau national, les tests positifs sortis en fin de semaine dernière vont être analysés pour mesurer la présence de ce variant anglais chez nous. Les résultats seront connus dans la semaine. 50 000 doses du vaccin Moderna arrivent aujourd'hui en France. Elles seront livrées dans le Grand Est, en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA. Et puis l'OMS va enfin pouvoir enquêter en Chine sur l'origine de ce coronavirus. Une équipe arrivera jeudi, fait savoir ce matin l'Organisation mondiale de la santé. Sujet sensible pour Pékin qui avait retoqué une première visite la semaine dernière officiellement pour des problèmes de visa.
RTL 8h05, ça va faire bientôt 2 ans. Un immeuble de Courchevel était détruit par un incendie faisant 2 morts.
Cet ancien hôtel abritait des saisonniers logés là par un propriétaire qui avait visiblement fait fi des recommandations en matière de sécurité. C'est ce que dénonce un rapport d'experts accablant que vous nous révélez pour RTL, Serge Puyot.
Dès 2009, soit 10 ans avant le drame, le bâtiment, qui était alors un hôtel vétuste, avait reçu un avis défavorable de la commission de sécurité, car il n'était pas aux normes incendie. Des travaux avaient alors été exigés, comme la pose de portes pare-flammes dans les 40 chambres, l'installation d'une trappe de désenfumage dans la cage d'escalier. La mairie avait même fait fermer le bâtiment. Pourtant, en 2018, le nouveau propriétaire, qui possède plusieurs hôtels, bars et restaurants à Courchevel, y installe ses travailleurs saisonniers sans le déclarer aux autorités et sans réaliser les travaux de sécurité préconisés 9 ans auparavant. Résultat, la nuit du drame, le feu s'est propagé rapidement, un sinistre alimenté par des matériaux très inflammables. L'expert indique que la cage d'escalier s'est transformée en véritable cheminée. André Casiella, un saisonnier qui a réussi à échapper aux flammes, en veut beaucoup à son patron.
Nous sommes des êtres humains, on n'est pas du bétail. La vie, ça se monnaie pas. On n'a pas le droit de jouer avec nos vies comme ça. Ce patron avait largement les moyens financiers de mettre aux normes avant de loger qui que ce soit en personnel là-dedans.
Le parquet de Chambéry a demandé au juge d'instruction la mise en examen du propriétaire de l'immeuble.
Information RTL signée Serge Puyot.
Après la pause, drôle de situation, le sort de Donald Trump entre les mains de son vice-président. On va vous expliquer tout ça, restez avec nous.
RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Mike Pence ira-t-il jusqu'à pousser son patron hors des murs de la Maison Blanche?
Le vice-président est devenu la bête noire des militants trumpistes et de Donald Trump lui-même depuis qu'il a validé la victoire de Joe Biden. Les démocrates veulent lancer une nouvelle procédure de destitution, à moins que Mike Pence ne décide lui-même de dégainer le 25e amendement qui consiste à juger inapte le président en exercice. Et la tentation est grande, Lionel Gendron.
Oui, la ligne est rompue entre les deux hommes depuis mercredi. Pour Donald Trump, son vice-président a manqué de courage en certifiant la victoire de Joe Biden. Mike Pence, furieux, n'aurait pas digéré cette critique. Mais il n'a pas encore abandonné Donald Trump. Pour l'instant, il bloque le 25e amendement. La section 4 permet de destituer un président en incapacité physique ou mentale. Mais pour ça, il faut la majorité du gouvernement et surtout le vice-président. Mike Pence n'a pas encore bougé, mais ça pourrait changer à cause du comportement de Donald Trump et des menaces dont il est l'objet. Pendant l'assaut du Capitole, des assaillants ont scandé « Pendez Pence ». Il a reçu plusieurs menaces de mort, dont celle-ci sur un réseau social. Préparez les pelotons d'exécution, Pence passera en premier. Le vice-président est bien sûr atteint. On saura à ces prochaines heures si le discret Mike Pence sera celui qui poussera Donald Trump vers la petite porte.
Lionel Gendron, Donald Trump et les Américains qui ne participeront pas au nouveau sommet pour la planète organisé par l'Elysée, quatrième sommet du genre qui réunit les chefs d'État et les ONG. L'objectif est de freiner le réchauffement climatique et de protéger la nature. Et il était une figure de la défense de l'environnement à la télévision et plus précisément de la mer et de ses richesses. Georges Pernoud, l'ancien présentateur de Thalassa, est mort à 73 ans. On l'a appris ce matin. Il avait animé l'émission pendant 37 ans et c'est Jean-Marie Cavada qui avait mis l'émission à l'antenne lorsqu'il était le patron de FR3.
Je pense qu'il faut le considérer comme un précurseur du respect de la biodiversité et surtout, il avait un côté commandant Cousteau, plus aimable que celui-là d'ailleurs par parenthèse, mais le découvreur qui nous a fait voyager sur tous les continents et surtout ce qu'il a eu de très intéressant, c'est qu'il a toujours associé la mer à la terre. C'était pas un homme qui avait le pied marin d'ailleurs, il l'a souvent dit. Il nous faisait regarder la terre de la mer ou regarder la mer de la terre. Et ça c'est quelque chose de très intelligent qui aujourd'hui est une vraie valeur de notre, comment dirais-je, reconnaissance envers la nature.
Avec Patrice Thomas et donc ce générique mythique de l'émission Thalassa sur FR3 puis France 3.
Et après cet hommage rendu à Georges Pernoud, on va terminer avec l'enchère du jour.
L'enchère du jour, une clé, mais pas n'importe laquelle. La maison britannique Sotheby's met en vente la clé de la chambre où Napoléon est mort lorsqu'il était emprisonné à Sainte-Hélène, Christophe Decroix.
Oui, alors quand on la regarde, ça ressemble à une banale clé de 13 cm de long, usée par le temps. Mais voilà, cette clé a une histoire. Elle a été retrouvée, on dirait du Harry Potter, oui, dans une enveloppe, elle-même dissimulée dans une malle, elle-même oubliée dans une maison écossaise. Et avec cette clé, un mot où il est écrit « clé de la chambre de Longwood où est mort Napoléon et que j'ai pris moi-même sur la serrure de la porte ». Longwood, île de Sainte-Hélène, où était retenu prisonnier l'empereur. Celui qui écrit ces mots est un certain Charles Richard Fawkes, militaire en poste en 1821 à Sainte-Hélène. Et s'il ramène cette clé en Écosse, c'est parce que sa mère, la baronne Holland, est une admiratrice de l'empereur qu'elle a rencontré quelques années plus tôt à Malmaison. Elle l'a tellement appréciée qu'elle lui a envoyé, durant sa captivité, des livres et des douceurs. Depuis, la famille Fawkes savait qu'elle avait cette clé quelque part, mais elle avait été cachée. La voilà qui réapparaît opportunément, alors qu'on va fêter le 5 mai prochain le bicentenaire de la mort de Napoléon.
Et cette mise à prix pour la clé, c'est 5000 livres. Hein, c'est
entre 3000 et 5000.
Entre 3000 et 5000. Merci beaucoup, Christophe Decroix.
Pas cher pour une clé rouillée.
Non, en effet, c'était le journal de Jérôme Florin. Avant de retrouver Jean-Mathieu Pernin, un point météo avec vous, Louis Bodin.
Oui, avec côté ciel à retenir, dans le sud, une très nette amélioration. Fin de l'épisode neigeux entre les Pyrénées, les Alpes, la Méditerranée. Là, on va retrouver du grand soleil, sauf sur l'ouest de la Corse, on a encore quelques averses. Et à l'inverse, au nord de la Loire, le ciel va devenir de plus en plus nuageux, notamment cet après-midi, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, de l'Île-de-France jusqu'au Val-de-Loire et puis de l'Aquitaine au Nord-Est. Ça sera moitié soleil, moitié nuage. Côté température, forte gelée ce matin et cet après-midi, 1 à 5 degrés dans la plupart des régions, donc ça reste encore très froid. 6 à 9 degrés en Bretagne, où ça remonte un peu, et 6 à 10 degrés près de la Méditerranée.
Merci Louis Bodin, il est 8h13.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Partons voir ce qui se passe du côté des intox et des fausses informations avec vous, Jean-Mathieu Pernin, ce lundi matin. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, une récente protection juridique accordée aux médecins prouve-t-elle que le vaccin est dangereux ?
Eh bien oui, c'est un nouvel angle d'attaque, des anti-vaccins les plus radicaux. Mm-hmm. Le vaccin contre la Covid est dangereux. La preuve, les médecins généralistes ont une protection juridique qui les prive de toute responsabilité en cas de problème. Diantre. Voilà donc que le grand complot vaccinal inclut désormais la justice. Mais comme le précise l'un des tenants de cette théorie, nous allons mettre tout ça à jour. Alors, grillons-lui la politesse et voyons ce qu'il en est. Le 24 décembre dernier, tout à notre réveillon distanciel, nous n'avions pas fait attention à cette annonce de l'Ordre des médecins. Un message que l'on trouve sur le site de l'institution et intitulé « Vaccination contre la Covid-19, l'Ordre obtient des garanties pour sécuriser les médecins dans leurs décisions vaccinales ». Nous sommes alors 3 jours avant le lancement de la campagne de vaccination et l'Ordre des médecins explique qu'Olivier Véran, dans un courrier adressé au président du Conseil national, le docteur Patrick Bouet, eh bien que les professionnels de santé auront la même sécurité juridique que celle prévue dans le cadre des vaccinations obligatoires. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas responsables en cas d'effets secondaires graves. C'est alors l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, organisme public sous la tutelle du ministère de la Santé, chargé d'assurer un dédommagement amiable qui est saisi. Rien à voir donc avec une dangerosité du vaccin, mais avec une disposition juridique pour les blouses blanches.
Mais alors justement, Jean-Mathieu, concernant la responsabilité des médecins, elle est différente si le vaccin est obligatoire ?
Voilà, exactement. C'est une spécificité qui est intéressante de regarder. Lorsque la vaccination n'est pas obligatoire, à ce moment-là, ça fait l'objet d'un régime spécifique prévu aux articles
L1142-1.
Exactement. Oui. Et suivant du Code de la Santé publique, on peut mettre en cause 4 responsabilités différentes. Celle du fabricant, du distributeur, du professionnel de santé et enfin de l'État. Quand un vaccin est obligatoire en cas d'effet secondaire grave, c'est donc l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux qui est chargé d'assurer un dédommagement amiable qui est saisi. Chose étrange.
Oui.
Quand on nous dit depuis novembre que la vaccination n'est pas obligatoire, de voir des médecins dépendants d'un régime juridique actif en cas de vaccination obligatoire. Il y a comme un renard dans le poulailler. En fait, non, comme le précise LCI, puisque ce dispositif avait été activé pour la vaccination contre le H1N1 en 2009, et dans le courrier d'Olivier Véran adressé le 23 décembre à l'Ordre des médecins, il est souligné le caractère urgent de la vaccination, circonstance atténuante pour le ministre de la Santé afin de dédouaner le professionnel de santé qui se verrait attaqué en justice.
Oui, alors grande méfiance avec certaines attestations traînant sur Internet.
Oui, c'est un groupe très actif depuis le début de la pandémie, anti-confinement, anti-masque, anti-vaccin, qui vous propose de télécharger des attestations à faire signer à votre médecin pour engager sa responsabilité quand il vous vaccinera. Des attestations qui n'ont aucun fondement juridique, donc à éviter de télécharger pour surtout éviter d'être ridicule devant votre médecin lors de votre future vaccination.
Jean-Mathieu Pernin, RTL, il est 8h16.
RTL Matin. Yves Calvi.
Notre brigade RTL, la France accueille aujourd'hui une conférence mondiale sur la biodiversité, le One Summit Planet, le sommet mondial, qui va réunir une 30aine de chefs d'État. Au menu de cette conférence, le lien entre la protection de la nature et le risque de grandes épidémies, pire que la Covid-19, quel est le rapport ? Eh bien, nous allons demander à notre brigade. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Si certains doutaient encore de l'importance de protéger la nature, voilà un argument parfaitement concret, nous protéger tout simplement des pandémies.
Oui, parce que pratiquement toutes les grandes pandémies humaines viennent des animaux. La grippe espagnole, plus de 30 millions de morts, est venue du virus d'un oiseau. La grippe A en 2009, pareil, d'un virus aviaire qui a muté chez les cochons, ou encore Ebola, qui lui a pour origine la chauve-souris.
Pourquoi la destruction de la biodiversité augmente-t-elle les risques ?
Eh bien, quand vous détruisez le territoire de certaines espèces, par exemple par la déforestation, celle-ci se rapproche de l'homme. C'est ce qui s'est passé pour Ebola. La chauve-souris, ayant moins de forêts, s'est rapprochée des villes et a transmis son virus. Autre exemple, la maladie de Lyme, qui se développe avec les tiques, est liée à la diminution des prédateurs des tiques, des rongeurs, des putois, des renards, des fouines. Alors plus vous tuez ces espèces, plus il y a de tiques.
En cause aussi l'agriculture industrielle qui peut favoriser l'émergence de virus ?
Oui, quand vous élevez des milliers de volailles ou de cochons ensemble, vous augmentez le risque de diffuser des virus. On le voit en ce moment avec la grippe aviaire qui touche les canards dans le sud-ouest. L'OMS a mis en garde, il n'y a pas de transmission à ce jour chez l'homme, mais c'est le genre de situation qui peut dégénérer, comme la grippe du poulet en Chine en 97.
Quand on appauvrit la biodiversité, Virginie, les virus deviennent aussi plus dangereux.
Alors, plus la biodiversité est riche, plus vous avez ce que les scientifiques appellent des espèces freins qui empêchent les virus de circuler d'une espèce à l'autre. Quand vous l'appauvrissez, ces freins disparaissent et les virus deviennent plus dangereux. Alors, il y avait une pandémie par siècle avant, il y en a eu 6 au XXe siècle, les scientifiques en redoutent une tous les 10 à 15 ans.
Alors, qu'est-il possible de faire ? Des annonces vont être normalement faites aujourd'hui.
Oui, la France va lancer un programme mondial de recherche qui va s'appeler PRESOD. Emmanuel Macron veut rassembler 300 250 millions d'euros pour étudier et lutter contre ces virus. Cette année sera celle de la biodiversité avec une COP, une conférence en Chine, un sommet mondial à Marseille pour que ce sujet soit pris autant au sérieux que celui du climat. Si l'homme fait n'importe quoi avec la nature, il se met en danger.
Merci beaucoup Virginie Garin. Nous suivrons grâce à vous les discussions et les possibles avancées de ce sommet pour la planète qui s'ouvre donc aujourd'hui à Paris. Il est 8h18, l'heure de retrouver Michel Simès dans quelques instants qui nous parle aujourd'hui de l'apnée du sommeil et des conséquences sur notre santé.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Qu'est-ce que j'apprends ? Ce matin, vous nous alertez sur l'existence d'un tueur silencieux ?
Oui, je sais bien qu'en matière de santé, alors les tueurs silencieux, hein, c'est pas ce qui manque. Hein. Il y a le diabète, l'hypertension, les tumeurs qui peuvent prospérer discrètement et j'en passe. Mais il en est un qui concerne pas mal de monde et dont on n'évalue pas assez le potentiel de nuisance. Ce tueur, c'est l'apnée du sommeil. Alors tueur silencieux, faut le dire vite, hein, oui. Parce qu'en général, les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil, et si c'est votre cas, la personne qui partage votre lit vous l'a sans doute fait remarquer, sont assez bruyantes quand elles dorment, hein. Sauf que précisément elles dorment et elles ne s'en rendent pas compte.
Alors justement, quand on fait de l'apnée du sommeil, on s'arrête de respirer en dormant. Combien de temps peuvent durer ces plages où l'on se prive d'oxygène ?
Quelques secondes, 5, 10, parfois plus. Dans les cas les plus sévères, ça peut aller jusqu'à 30 secondes. Mais ce n'est pas tant la durée que la répétition de ce phénomène qui vous réveille à échéance régulière et vous condamne à des nuits en pointillés. Résultat, vous vous réveillez fourbu, d'une humeur de chien et la journée démarre sur les pires bases qui soient.
C'est en cela qu'on peut parler de tueur silencieux ?
Pas seulement. Quand les médecins parlent de tueur silencieux, c'est à prendre au premier degré. Notre organisme, ça n'est pas une découverte, a besoin d'oxygène. Si vous l'en privez, il en endure les conséquences. Ouais. Et la liste des problèmes liés à une mauvaise oxygénation nocturne de l'organisme est tellement longue que j'hésite presque à vous la détailler.
Non mais je suis sûr que vous allez le faire si j'insiste.
Bah oui, allez, je vais le faire, d'accord. Je me lance. Alors, hypertension artérielle, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral et troubles du rythme cardiaque. Et j'ajoute à tout cela ce qui détraque le fonctionnement de votre cerveau, oui. Troubles de la mémoire, troubles de l'attention, irritabilité. Je vous fais là la synthèse de ce qui ressort des études publiées sur le sujet aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ça provient de données récoltées auprès de plus de 4 millions de patients.
Donc vous nous dites que l'apnée du sommeil ne doit pas être prise à la légère et qu'il faut absolument consulter si on a un doute.
Voilà, vous devez consulter si vous êtes concerné. Hein. Parlez-en à votre médecin traitant qui vous orientera. J'ajoute, pour ceux qui hésiteraient, deux arguments de poids. Le premier, c'est que l'apnée du sommeil peut provoquer une forme de somnolence dans la journée. Ce qui pose problème si vous prenez le volant, selon la sécurité routière, il augmente de 25% le risque d'accident. Les plages horaires les plus dangereuses étant le matin, entre 4 et 6 heures, et l'après-midi, entre 15 et 17 heures.
Le second argument.
Ah bah là, il est imparable, vous allez voir. Figurez-vous que l'apnée du sommeil peut déboucher sur une perte de libido, et des troubles de l'érection.
Ah bon ?
Voilà, alors je dis ça, je dis rien, hein, mais j'ai comme l'intuition que cet argument va obtenir l'adhésion de tous les hommes et accessoirement des femmes.
Je pense que oui. Michel, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 11h30 sur RTL avec Bérénice Bourgueil et Bruno Guillon pour leur quiz quotidien. À tout à l'heure. Il est 8h22, dans un instant on accueille une personnalité que vous connaissez bien sur RTL puisque c'est Karine Lemarchand qui ont pu faire partie de nos grosses têtes avec Laurent Ruquier, produit et anime une toute nouvelle émission ce soir sur M6 à 21h, Opération Renaissance, on va tout vous expliquer, à tout de suite Karine.
Tout de suite.
7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi.
8h24, Karine Lemarchand est notre invitée ce matin puisqu'elle lance sa nouvelle émission Opération Renaissance à 21h05 ce soir sur M6. Bonjour Karine.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous, animatrice, productrice. On vous retrouve régulièrement, je le rappelle, dans nos grosses têtes avec Laurent Ruquier. Mais parlons de cette émission à laquelle vous êtes très attachée ce soir sur M6, groupe auquel appartient RTL, je le rappelle. En quelques chiffres, hein, 3 ans de tournage, 10 témoins en obésité morbide, une équipe de 10 spécialistes principalement du corps médical pour les accompagner. Tout cela est le résultat de 5 ans de travail. Pourquoi et comment vous êtes-vous lancée dans cette opération Renaissance, Karine ?
Moi, je suis toujours en train de chercher des idées, des missions dans ma tête. Donc, c'est un faisceau de choses qui se sont passées il y a longtemps. Mais ce qui a été le déclencheur, sans doute, ça a été la rencontre avec un chirurgien de chirurgie réparatrice qui m'a fait lire le courrier des personnes qui l'opéraient. Et il arrivait en fin de course, on va dire, du parcours. Oui. Et toutes parlaient de Renaissance. Et ce mot, je le trouvais tellement fort que du coup, ça m'a fait comprendre ce qu'était la chirurgie bariatrique. Donc, en amont de tout ça, il y a une perte de poids massive. Certains y arrivent naturellement, mais la plupart, pour perdre 50, 60, 100 kilos, passent par le fait qu'on leur coupe l'estomac, par exemple. Et donc, j'ai découvert que cette chirurgie, qui n'est pas très vieille, était en place en France.
Et qui est très impressionnante, on le verra dans l'émission.
Voilà. Non, c'est flouté, je tiens à le dire aux gens, hein, ceux qui ont peur des piqûres peuvent regarder.
C'est moi qui ai le droit à la version non floutée.
Mais non, mais dans les petits écrans, on voit, oui, en cédioscopie, mais c'est rien. Enfin, c'est vrai, un bout d'estomac, vous êtes fragile comme ça?
Non, mais c'est impressionnant, c'est physiquement impressionnant.
C'est possible. Ah, bah, non, il ne faut pas dire ça aux gens qui ont peur. Et en tout cas, on comprend, parce qu'en étant sur place, effectivement, y compris dans le bloc, on a des réponses auxquelles on n'a pas accès d'habitude, en fait, chez le médecin.
Alors, on parle d'un véritable phénomène de société, hein, puisque 7 millions de Français seraient aujourd'hui concernés. Ça fait quand même 15% de la population. Ce soir, nous allons suivre, et vous avez accompagné, Stacy, 120 kilos pour 1m64, Elodie, 116 kilos pour 1m55. Alors, je le dis tout de suite, elles sont charmantes. Leurs témoignages sont extrêmement touchants. Sans en dire trop sur l'épisode de ce soir, on peut dire qu'on va avoir le droit à des rebondissements. Hein, parce que,
oui, parce qu'en fait,
dans tous les sens du terme.
L'intérêt de cette émission, c'est, je pense que ça n'a jamais été fait à la télévision, c'est qu'on a suivi pendant 3 ans des personnes. Et dans chaque épisode, on va voir le début et la fin de la transformation ou de la non-transformation, parce que parfois, certains échouent. Hein. Mmh. Sur les 10, il y en a 3 quand même qui n'atteignent pas leur objectif et on saura pourquoi. Et donc, effectivement, en 3 ans de vie, il se passe beaucoup de choses. Et au-delà de l'opération, parce que tout commence, on va dire, par l'opération de l'estomac, après, c'est tout ce qu'il va falloir mettre en place psychologiquement dans leur vie pour que cette perte de poids soit pérenne et qu'elle soit bien vécue. Parce que malheureusement, 30 à 40% des gens opérés regrossissent.
Elodie, elle fait une réaction allergique à l'anesthésie. On va le voir dans l'épisode de ce soir.
Stacy a failli mourir. Mais là, vous spoilez. Non, mais bon, c'est vrai que ça commence.
Faut le voir. Non, mais pour savoir que ça existe, que vous, à ce moment-là, vous êtes, vous assistez par le petit hublot au début de l'intervention. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous êtes en train de faire de la télévision avec des gens à qui vous voulez donner un coup de main.
Je pense à Stacy.
Il y a un drame qui se joue quand même.
Je pense à Stacy. D'abord, je suis très contente d'avoir sélectionné des témoins qui étaient déjà engagés dans ce parcours de chirurgie et qui l'auraient fait de toute façon, parce que c'est une grosse responsabilité. Et effectivement, sur les 10, il y en a quand même 2, dont Stacy, qui ont failli mourir pour différentes raisons. C'est pas anodin, cette chirurgie.
Alors justement, précisons que ça n'est pas l'émission qui les a conduites à l'opération, c'est un choix mûrement réfléchi dans lequel il ou elle s'était déjà engagé.
Absolument, on a sélectionné des témoins qui étaient déjà engagés dans ce parcours.
Les deux participantes ont des IMC, des indices de masse corporelle supérieurs à 44, voire proche de 50. C'est pour ça qu'on parle d'obésité morbide.
Oui, quand l'IMC, c'est-à-dire vous divisez votre poids par la taille au carré, vous donne un chiffre que d'ailleurs même les pédiatres regardent avec vos enfants quand ils sont tout petits. Et c'est ce chiffre qui indique en fait la faisabilité. Il faut que l'IMC soit supérieur à 40 ou à 35 avec 2 facteurs de comorbidité que sont l'hypertension, l'apnée du sommeil et le diabète.
Comment avez-vous mis en place le protocole avec ces jeunes femmes et les autres participants à l'émission d'ailleurs? Vous avez lancé un appel auprès de personnes ayant fait le choix de se faire opérer?
Oui, absolument. On est allé sur les groupes de parole, on a mis des petites annonces aussi dans les hôpitaux, dans certains services. On a travaillé avec des chirurgiens parmi leur patientèle en leur disant, si vous pouvez leur passer le mot, oui. On recherche. En fait, ce qui était compliqué, c'est qu'on voulait vraiment qu'au terme de ces émissions, on ait une idée des origines de l'obésité, mais aussi des conséquences. Donc, il nous fallait toutes les maladies associées à l'obésité, mais on voulait aussi toutes les causes et les formes d'addiction à l'alimentation qui étaient différentes. Certains sont grignoteurs, donc ont des pulsions. D'autres font de l'hyperphagie, c'est-à-dire ils ne ressentent pas la satiété. D'autres font de la boulimie. Ouais. Et à chaque façon d'être, en fait, on va dire malade, il y avait des solutions différentes, en fait, à régler.
Alors, vous savez qu'il y a une forme de polémique concernant l'opération naissance, puisque des associations s'inquiètent du fait que vous fassiez la promotion du corps parfait, et pour tout dire, de ce qu'on appelle la grossophobie, le rejet du gros. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Bah, évidemment que de leur combat, elles ont raison de lutter pour que notre société soit de plus en plus inclusive, c'est-à-dire qu'on considère les gens tels qu'ils sont, sans les normer absolument. Oui. Ça, c'est fait. Maintenant, là, il s'agit de gens qui sont en obésité morbide, qui de toute façon voulaient se faire opérer et qui, dont la santé et la vie étaient en danger. En fait, et c'était même pas un sujet. Le problème n'est pas de rentrer dans son 36. Le problème, c'est d'avoir une vie meilleure. Et certains ne sortaient pas de chez eux parce qu'ils étaient aussi phobiques sociaux.
Je connais votre attachement à ce programme. J'imagine que cela vous touche, ce genre de réflexion, mais on est bien d'accord. En fait, ces hommes et ces femmes, non seulement leur santé était en jeu, mais leur vie potentiellement, on est bien d'accord.
Ah bah bien sûr. On sait qu'une personne obèse à 25 ans a une espérance de vie réduite de 13 ans. Et je ne vous parle pas de toutes les difficultés de personnes qui deviennent grabataires, qui ont des problèmes de hanches, de genoux, qui ne se meuvent plus. C'est aussi la qualité de vie aussi dont on parle, au-delà des maladies.
On connaît votre chaleur et votre capacité à avoir des liens, une sympathie immédiate avec ceux que vous interviewez dans toutes vos émissions. Est-ce que vous vous êtes attaché à eux? Est-ce que parfois ça a été difficile? Enfin, comment vous avez, vous, Karine, vécu cette préparation? C'est 3 ans de votre vie, hein, je le rappelle.
Bah, c'est même 5 ans, on est une famille. Alors, je dis ça un peu pour les agriculteurs. Certains sont plus proches de moi que d'autres chez les agriculteurs, parce qu'il y en a quand même 12 par an. Mais là, vous pouvez imaginer que d'abord, c'est un groupe. Entre elles sont amies. Elles ont vécu une expérience similaire et je pense que ça a été d'une grande aide. Et ça montre vraiment que tout ce qui est groupe de parole et association, c'est nécessaire pour vivre ensemble la même expérience. Mais au-delà de ça, bien sûr, je les aime et je les remercie. Ils sont tous courageux, ils sont tous mais exceptionnels d'humanité. Je les adore.
Merci beaucoup Karine Lemarchand. Rendez-vous ce soir dès 21h05 pour le premier épisode donc d'Opération Renaissance.
Merci.
On était heureux de vous accueillir ce matin.
Merci.
Bonne journée à vous.
Vous aussi.
Dans un instant, la météo à 7 jours, Louis Bonan. Ah ben voilà, c'est parti.
RTL Matin, laissez-vous tenter.
Bonjour, c'est Steven Bellery. Il claque la porte. Adieu maison de disques et plateforme de streaming. Pascal Obispo s'émancipe de l'industrie du disque en créant sa propre application. À cette occasion, il nous ouvre les portes de son studio d'enregistrement. Il vient d'y peaufiner 200 nouveaux titres. Visite guidée et rencontre avec un boulimique de musique à 9h dans Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Il est 8h33, notre météo à 7 jours, oui, s'il vous plaît, avec Monsieur Louis Bodin.
Et il va y avoir du changement. Alors, on a dit aujourd'hui encore du froid, du temps sec dans la plupart des régions, mais déjà l'arrivée de quelques nuages dans le nord-ouest, et ça annonce une dégradation beaucoup plus sérieuse demain, avec une perturbation qui va revenir par le nord-ouest, donc ça veut dire de l'air océanique. Les températures vont légèrement remonter pour revenir à des valeurs de saison, 8-9 degrés au nord comme au sud, mais avec de la pluie et de nouveau de la neige à basse altitude dans l'est, notamment sur les Vosges, le Jura, les Alpes, parfois jusqu'en plaine demain matin du côté de la Lorraine et de l'Alsace. Ça ne durera pas toute la journée, mais donc de nouveau des intempéries avec pluie et neige à basse altitude. Près de l'Atlantique, on sera relativement épargné, puis près de la Méditerranée également, parce qu'on aura beaucoup de Mistral et de Tramontane. Pour la journée de mercredi, cette même perturbation va rester bloquée sur l'Est, où elle va donner quelques centimètres supplémentaires dans les stations, voilà, qui vont rager, parce qu'il y aura de la neige partout, quoi, bah, des conditions incroyables.
Les raquettes, ça a son limite, c'est limite.
C'est limite, voilà, bon, bah, profitons-en quand même, en tout cas pour ceux qui peuvent y aller. Pour la journée de jeudi, une nouvelle perturbation.
C'est plutôt raclette que raquette, si vous voulez.
Oui, c'est ça, où on peut faire les deux.
J'en parlerai avec Karine Lemarchand une autre fois pour l'émission.
Voilà. Il faut le faire dans l'ordre. Avec jeudi encore une perturbation qui donnera de la pluie et de la neige en montagne. Vendredi peut-être une petite accalmie. Samedi encore des précipitations. Et puis dimanche une perturbation encore plus active pourrait circuler sur la France avec de nouveau de l'air froid. C'est-à-dire qu'après une petite remontée en milieu de semaine, l'air froid pourrait revenir avec donc de nouveau peut-être de la neige jusqu'en plaine à partir de dimanche. C'est encore un peu loin pour être précis. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hiver n'est pas fini, qu'au contraire, il va persister, que l'air froid n'est jamais très loin et que donc il va encore neiger, parfois jusqu'en plein.
Alors je retiens aussi que la situation était plutôt stationnaire avec le froid et que là elle devient perturbée, mais toujours avec le froid.
Exactement, donc, voilà. Et donc l'humidité.
Merci infiniment Louis Bodin. RTL, 8h35.
RTL, vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça sur RTL, nous allons à votre rencontre chaque matin grâce à nos correspondants en région. Direction aujourd'hui Alençon, dans le département de l'Orne. Bonjour Christian Panvert.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous nous emmenez à la rencontre de femmes qui exercent un métier devenu très rare. Elles sont dentelières et ce sont les seules en France qui fabriquent une dentelle entièrement faite à l'aiguille et à la main.
Absolument, un savoir-faire unique au monde, mais avant d'aller à leur rencontre, un peu d'histoire. Tout commence en 1650, Marthe Laperrière introduit à Alençon une technique de dentelle venue d'Italie, appelée le point de Venise. Elle le perfectionne, le point de Venise devient le point de France, puis le point d'Alençon. Colbert, alors ministre de Louis XIV, crée une manufacture dans la ville normande. À son apogée, la fabrique emploie 10 000 ouvrières, mais au fil des siècles, elle est victime de la concurrence de la mécanique. Alors, pour éviter la disparition d'un savoir-faire français, l'État décide de créer, en 1976, l'Atelier Conservatoire National du Point d'Alençon.
Et c'est justement dans cet atelier que vous avez pu pénétrer.
Oui, une structure où travaillent encore 9 dentelières dans une ambiance quasi monacale. Valérie Durand, chef d'atelier.
Nous commençons par les dessins. Le dessin artistique qui représente notre dentelle telle qu'elle sera au final. Et le dessin technique qui va nous servir à piquer notre parchemin, qui reprend juste les contours en fait, de notre dessin.
Elle manie avec dextérité du fil de coton quasi invisible. Utilise du crin, de cheval, blanc ou noir. L'exécution d'une dentelle nécessite 10 étapes après le dessin. Le piquage, les brodes, le levage, voici le luchage.
Le luchage, c'est un repassage à froid sur les parties opaques. On appuie à l'aide d'une pince de homard.
J'ai bien entendu, une pince de homard.
Oui, c'est la partie la plus fine en fait de la pince de homard. Ça renforce le relief et ça place les petits points correctement.
Le temps ici s'écoule au rythme des doigts qui s'agitent. Camille, 36 ans, très concentrée, exerce son art avec agilité.
On doit faire bien avant de faire vite. Personnellement, j'écoute souvent de la musique. Ça me permet de faire abstraction de tout ce qui se passe à côté, y compris à l'extérieur, puisque donc on est au rez-de-chaussée avec des grandes fenêtres. Plus concentré avec la musique vraiment dans les oreilles, ouais, ça aide.
Martine est dentelière depuis 43 ans.
Comme ma vue, elle a baissé énormément. Je travaille avec un fil légèrement plus gros que l'ordinaire. C'est nécessaire de faire des pauses le matin. Le matin, on fait de la dentelle et l'après-midi, on fait la broderie pour justement reposer les yeux.
Elle nous dévoile son secret de longévité.
C'est pas parce que c'est votre radio, mais je commence par RTL. Laurent Gérard. Ça met en forme.
Elle reconnaît avoir cassé un fil à cause d'un fou rire. En face d'elle, Amandine, 23 ans, elle a fait une première année de médecine avant d'embrasser la carrière de dentelière. Comme ses collègues, elle met entre 7 et 15 heures pour réaliser un centimètre carré.
J'aime la rigueur, la beauté. Il faut être très patiente et j'adore voir le résultat à la fin de tout notre travail.
Et vous vous imaginez dentelière dans 42 ans ?
Oui, je suis bien ici et j'aime bien ce que je fais.
Alors on salue bien sûr particulièrement Martine et toutes ces dentelières dont le savoir-faire est inscrit depuis 10 ans maintenant au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.
Oui, et c'est une fierté pour Hervé Lemoine, directeur du Mobilier National.
C'est vraiment une reconnaissance d'un savoir-faire, d'une particularité du génie humain, de la virtuosité du geste qui est tout à fait essentielle. La seule façon de l'apprendre, et c'est près de 10 ans d'apprentissage, c'est vraiment par le geste, la parole, la pratique, l'exemple. Donc on est vraiment là aussi dans une très belle aventure humaine, je dirais.
Et l'atelier est tourné vers l'avenir. Les dentelières participent régulièrement aux œuvres d'artistes contemporains. Le musée des Beaux-Arts d'Alençon expose leur savoir-faire qui participe à la réputation internationale de la ville.
Tous les détails sont passionnants. Merci infiniment Christian Panvert pour ce voyage hors du temps avec les dentelières d'Alençon.
RTL Matin, la face cachée de la Lune.
Après la dentelière d'Alençon, la dentelière de la revue de presse, ce matin, Isabelle Choquet, vous vous arrêtez sur un épisode assez rocambolesque de notre histoire, où l'on voit l'imposant André Malraux condamné pour vol.
Oui, quelque part entre Arsène Lupin et Indiana Jones, cette histoire nous emmène au Cambodge, à Siem Reap, très précisément au nord-ouest de Phnom Penh. C'est la ville la plus proche du parc archéologique d'Angkor, la capitale des rois Khmer pendant plusieurs siècles. À l'entrée du temple de Bantay Srey, il y a un petit panneau, découvert en 1914. C'est seulement après le vol des bas-reliefs en 1923 que le dégagement du site commença. Ce que le panneau ne dit pas, c'est que le voleur, c'était Malraux. On peut lire ça dans le Figaro Histoire. L'aventure commence par une histoire d'amour dans le Paris des années 20. Malraux a quitté les prises familiales de Bondy pour Paris. Il est éditeur, un peu dandy, chouchou de l'avant-garde intellectuelle. Un jour, il rencontre Clara, une Allemande naturalisée française. Elle est aussi rationnelle et rigoureuse qu'il est rêveur et fantasque. Coup de foudre, il se marie, il voyage, c'est la vie de bohème. Mais André a placé les économies de Clara dans des actions mexicaines qui ne valent plus rien. Les voilà ruinées. Que faire ? Vous ne pensez tout de même pas que je vais travailler, dit Malraux. C'est là qu'il tombe sur un bulletin de l'école française d'Extrême-Orient qui décrit un temple oublié, perdu dans la jungle. Le monument n'est pas encore classé. Besoin d'argent, envie d'aventure. Allez, c'est décidé. Le couple monte une expédition. Grâce à ces relations, Malraux obtient un ordre de mission pour des études archéologiques au Cambodge. Alors, ils embarquent à Marseille le 13 octobre 1923 avec dans leur bagage une douzaine de scies égoïnes. Et ils retrouvent à Saïgon un vieil ami de Malraux, Louis Chevasson. Pour ne pas se faire prendre, les apprentis pilleurs imaginent une ruse. Après l'opération, Clara et André reviendront seuls et les mains vides à Phnom Penh. Et c'est Chevasson qui repartira avec le butin. S'il est découvert, bon, André saura bien le faire libérer. Les voilà donc remontant le Mékong. À Siem Reap, on leur fait la leçon. Interdiction formelle de toucher aux vieilles pierres, classées ou pas. Oui, oui. 10 jours plus tard, la chasse au trésor est lancée. Ils avancent lentement, au rythme des charabeux qui doivent ramener le butin. Les guides jouent du coupe-coupe dans les lianes parcourues par d'énormes araignées. C'est la phobie de Malraux. Et puis soudain, le temple apparaît. C'était une sorte de petit Trianon de la forêt, racontera Clara. Petit, mais d'une forme parfaite, d'une beauté suffocante. Les deux hommes se mettent au boulot. Ils scient, ils découpent les bas-reliefs, ils les chargent sur les chars. Clara fait le guet. Ma première impression, dit-elle, c'est que nous l'avions mérité, que ce n'était pas un vol. À l'époque, il n'y avait pas un fonctionnaire français qui ne possédât une statue khmer. Ouais. Le plan se déroule comme prévu. Le couple rentre de son côté. Chevasson, 2 jours plus tard, avec 4 énormes mâles. Des mâles saisis par la police dès son arrivée à Phnom Penh. Sauf que les pilleurs se retrouvent tous les 3 en résidence surveillée. Et ils vont y rester 7 mois. Alors Clara bénéficie d'un non-lieu pour raison de santé, mais les deux hommes, eux, sont jugés. Verdict, 3 ans ferme pour Malraux, 18 mois pour Chevasson. À Paris, Clara fait circuler une pétition signée tout de même par Aragon, Gallimard, Gide, Mauriac. La peine est réduite à 1 an avec sursis et voilà. Fin de l'histoire, ou presque, car Malraux, sûr de son bon droit, va quand même se pourvoir en cassation pour tenter de récupérer les bas-reliefs, sans succès. À son retour, il signe pour 3 livres chez Grasset, il va devenir écrivain, ministre, et personne ne lui posera jamais de questions sur cette expédition loufoque. Mais quand De Gaulle se rendra au Cambodge en 1966, celui qu'il appelle « mon ami génial » jugera quand même plus sage de ne pas l'accompagner. Malraux, pilleur d'Angkor, c'est un récit passionnant à lire dans le Figaro Histoire.
Isabelle Choquet, il est 8h43 dans quelques instants, nous retrouvons en ce lundi matin Laurent Gérard et son équipe au grand complet.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Après un temps de retard au démarrage, la France semble enfin avoir mis au point sa stratégie vaccinale contre la Covid-19. Le ministre de la Santé est avec nous pour en parler. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour Madame. En effet, il s'agit d'une stratégie en 3 étapes. Étape 1, nouveau report de l'ouverture des restaurants. Étape 2, vague de suicides chez les restaurateurs. Étape 3, récupération de leurs congélateurs pour stocker les vaccins.
Ah, c'est pas bête. Mais ça suffira pour stocker 70 millions de vaccins ?
Si ça ne suffit pas, nous réquisitionnerons les picards surgelés.
Ah, oui.
Comme vous le voyez, mon plan est imparable.
Ok, ça c'est le stockage, mais la vaccination en elle-même, on en est où ?
Notre premier objectif est de vacciner les plus de 75 ans avant la fin du mois, y compris ceux qui ne vivent pas dans les EHPAD.
Oui.
Papy et mamie pourront donc enfin sortir de la cuisine dès février.
D'accord, et pour les moins de 75 ans ?
Nous vaccinerons en priorité les personnels en contact avec les personnes vulnérables, à savoir les aides à domicile, les infirmières, les pompiers et les toiletteuses de caniche.
Les toiletteuse de caniche.
Bah oui. Tout à fait. Le caniche étant l'animal préféré des personnes âgées, il nous a semblé important de vacciner les employés de Beauty Dog, Toutou Coif, Sexy Waf Waf et autres établissements où nos anciens sont amenés à se rendre pour toiletter leurs compagnons à 4 pattes.
Ça fait penser à tout. Hein. Et pour le restant de la population alors ?
Pour les Français qui restent, j'ai décidé de créer la Française des vaccins qui fonctionnera comme la Française des Jeux, puisque la probabilité d'être vacciné en 2021 est comparable à celui de gagner au loto. C'est ce qui m'a semblé le plus pertinent.
Les images du Capitole de Washington, pris d'assaut par des supporters du président sortant Donald Trump, ont stupéfait le monde entier. On fait le point avec notre spécialiste des USA. Comment voyez-vous la passation de pouvoir à la Maison-Blanche, John Rambo ?
Je la vois pas. T'imagines quand même pas que Donald va laisser le vieux Joe lui piquer son bureau ovale et ses clubs de golf sans se défendre.
Non mais le Sénat ayant validé l'élection de Joe Biden, on ne voit pas bien ce que peut faire Donald Trump désormais. C'est ce qu'on appelle la démocratie.
De quoi ?
La démocratie.
Arrête de me faire marrer avec tes grands mots. Ça tire sur ma pédoplastie. T'as rien compris, petite grenouille. Tu te crois à un congrès du PSU avec Michel Rocard dans les années 70 ? La démocratie moderne avec Trump, c'est quand Trump y gagne. Et que ça énerve les journalistes. C'est bien. Ça, la démocratie.
D'accord, bon, alors expliquez-nous ce qui va se passer, John Rambo.
Oui. Ah.
D'abord, Donald va s'occuper de tous les traîtres. À commencer par Mike Pence, le vice-président. Il va le tondre et l'exiler.
À Guantanamo ?
pire. Il va l'enfermer à Disneyland et lui faire écouter la Reine des Neiges toute la journée.
Oh, bah non.
Jusqu'à ce qu'il devienne complètement barjo.
C'est pas humain.
Personne n'y résiste, crois-moi. Ensuite, avec Bison Futé, on va s'occuper du vieux Joe.
Bison Futé, de qui s'agit-il?
C'est comme ça qu'on appelle mon pote, celui qui rentre au Capitole habillé en viking avec ses cornes de bison sur la tête.
Ah ben oui, bien sûr, on pouvait pas le rater. Un certain Jake Angeli, connu pour ses thèses conspirationnistes.
Ne dis pas de mal de Jake.
Bien sûr.
Tu peux pas comprendre. Jake, le Bison Futé, c'est un ancien parachutiste. Dans son unité, Jake, il soupçonnait son capitaine d'être un démocrate sataniste qui mange les enfants. Alors un jour, il a refusé le parachute que lui donnait son capitaine et l'a sauté sans. Il est tombé sur un bison, il y avait du sang et des poils tout mélangés. Alors moi, je lui ai remis le crâne comme j'ai pu, mais ça débordait de partout. Je veux pas m'enlever ça de la tête, tu comprends?
Mais bien sûr, John Rambo, je comprends très bien. Et donc, Jake a mal pris la défaite de Donald Trump, hein? Et qu'est-ce que vous pouvez faire?
Avec mon pote Jake le bison, on va aller trouver le vieux Joe et lui conseiller de se rendre sans faire d'histoire dans un EHPAD de Floride.
Oui.
Et s'il demande, il est où votre ordre de mission? On lui répondra, dans ton cul.
C'est maintenant, c'est frais, l'heure de notre page de publicité avec Benjamin Castaldi.
Ah.
Pardon.
Je vous en prie, oui.
Bonjour, c'est Benjamin Castaldi, l'ancien animateur qui vit en couple avec sa perche à selfie. En ce moment, c'est la période des galettes. La pâte au beurre avec la frangipane dedans. C'est vraiment comme j'aime. La semaine dernière, j'ai tiré les rois avec ma perche à selfie. Mon partenaire, ma sœur, comme j'aime, n'est pas content parce qu'au lieu de manger du cabillaud vapeur ou haricots verts, comme j'aime, j'ai mangé toute la galette et j'ai même avalé la fève en céramique. Heureusement, chez Comme J'aime, ils m'ont envoyé une poire à lavement, comme j'aime. Essayez-la chez vous gratuitement pendant une semaine. Ça marche vraiment. D'ailleurs, il faut que je vous laisse.
Oh non, pas ça, non.
Oh non.
Ça y est, grâce au lavement comme j'aime, j'ai perdu un kilo et j'ai retrouvé la fève. Je vais la mettre dans mon coffre à côté des 500 000 boules de mon contrat comme j'aime. Merci comme j'aime.
La stratégie de vaccination française est très critiquée. Notre pays en... J'essaye de parler d'autre chose. Notre pays en nombre de personnes vaccinées reste très en retard sur ses voisins européens. Nous avons imaginé l'Eurovision des vaccins, animée par les papes du divertissement, les regrettés Guy Lux et Léon Zitron.
Eh bien, bonsoir et bienvenue à cette Eurovision des vaccins. On croit très fort au candidat français Olivier Véran. Il a un CV de médecin, bon vieux, il est plus long qu'à la liste des courses de ma femme. D'ailleurs, je profite du direct pour faire passer un message. Paulette, je ramène à bouffer ce soir. J'ai mis les petits fours qui traînaient dans un pochon et j'ai piqué une bouteille de mousseux. On va faire une bonne petite fête à la maison. Alors, fais péter les bigoudis. Après, les œufs de lampe, je te ferai péter autre chose. Alors, personne sur mon récepteur téléphone, d'ailleurs quatre couleurs. Mon ami Léon Zitrone, mon cher Léon, qui s'agite. C'est à vous, Léon. Guy Lux, des résidents d'un EHPAD qui réclament des vaccins, mais n'en ont pas, viennent de s'en prendre à moi. J'ai reçu un coup de canne, on m'a cassé mes lunettes. Guy Lux, on m'a cassé mes lunettes. Demandez celles de Jean Castex, mon cher Léon. Il a dû les retrouver depuis l'autre jour. Sinon, on lui offrira une chaînette. Il a l'air d'un con, mais ça ne changera pas beaucoup. D'habitude. On va faire le point avec Simone Garnier. Salutations à Fernando, le coiffeur visagiste de Marlène Schiappa, qui s'est occupé personnellement
Fernando.
Du lissage brésilien de notre Simone. Vous êtes très en beauté, ma chère Simone.
Oh, merci, Guy. Vous aussi. Même si c'est plus synthétique. D'après un sondage Ipsos Tartar, la cote de confiance d'Olivier Véran s'effondre.
Eh bien, on va voir ce qu'on va voir. Retrouvons notre ami Gennaro à SVP 1111 Balzac 32. Alors, Gennaro, où en est-on sur les scores du nombre de vaccinés?
Royaume-Uni, 500 000.
United Kingdom, 500,000.
Israël, 1 million.
Israël, 1 million.
France, 2.
France, tout. Comment ça? 2. 2 millions?
Non. 2 personnes vaccinées. Il s'agit de Robert et Bernadette de la maison de retraite, les œillets joyeux.
Eh ben, ce qui est bien, c'est qu'en France, on connaît tous les vaccinés par leur prénom. Bon, ben on n'est pas prêt de gagner. La prochaine fois, on nommera Marie-Myriam au ministère de la Santé, comme un enfant aux yeux de lumière, d'ailleurs, qui voit passer au loin les œufs. Ben nous, c'est les vaccins qu'on voit passer au loin. À vous, Cognac G, à moi les urgences.
Ah là là, merci à toute l'équipe en ce lundi matin. On était heureux de retrouver Guy Lux, bien entendu. Ah là là, Cyril est avec nous. Bonjour, cher Cyril Lignac.
Bonjour.
On se retrouve dans quelques instants. On va parler canard, si vous le voulez bien. Parlons canard avec Cyril Lignac. C'est dans un instant sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL Matin, Yves Calvi.
Cher Cyril, il est 8h56, on est heureux de vous retrouver. Emmanuelle est une auditrice qui nous écoute depuis Charin, c'est dans le département de la Nièvre, et elle voudrait cuisiner un canard entier, mais pas à l'orange. Hein. Que lui proposez-vous aujourd'hui de préparer ?
Alors, moi j'ai une grande passion pour la cuisine du voyage. Oui. Donc, partons sur un canard laqué. Mmh. Alors, on ne le fera jamais aussi bien que... en Chine, mais il y a quand même une recette super.
Oui, vous savez faire.
Pour que on ait un canard qui ait du goût et qui change en effet de ce canard à l'orange ou du canard aux olives que j'adore au devant. Alors, moi je prends déjà un canard de Challans. Oui. Les canards, c'est un sublime canard des marais vendéens. On prend un joli canard. Et alors, ensuite, pour faire le canard laqué, donc on le bride, c'est-à-dire on demande au boucher qui nous le bride,
oui,
c'est-à-dire on passe une ficelle pour bien l'attacher compact, et là on le met dans de l'eau bouillante pendant une demi-heure. Donc là on commence à le cuire. Alors quand je dis à l'eau bouillante, c'est-à-dire à frémissement, oui. On lave pas le linge, mais on le fait cuire un peu comme le départ d'un bouillon de volaille, d'accord. Donc un bouillon de canard. Ce qui permet de fixer un peu les chairs, oui. De fixer un peu le gras du canard et d'enlever un petit peu les impuretés. Donc après on l'enlève,
on l'essuie
bien, et là, alors pendant qu'il cuit, hein, comme ça on gagne du temps, on prépare la marinade.
Ah oui.
Alors,
allons-y.
La marinade du canard laqué, une cuillère à soupe de 5 épices. Dans mes 5 épices, je mets du poivre de Sichuan, de la badiane ou de l'anis, c'est une variation d'anis, de la cannelle, du clou de girofle et du fenouil.
Ça j'adore.
Et là, on mélange bien toutes ces épices. Voilà. Ensuite, on ajoute 4 cuillères à soupe de sauce soja. 2 cuillères à soupe de miel d'acacia ou de miel de lavande, comme on aime. 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, pour avoir l'acidité. C'est toujours la même base des marinades. Oui. Et de la fécule de maïs.
Ah bon ?
Et oui, parce que ça va nous permettre de fixer, en fait, la marinade. Parce que la peau du canard est un corps gras. La sauce soja et le miel aiment l'eau, donc pas le gras. Donc il faut l'aider à se fixer sur la peau. Voilà, donc on mélange avec un petit peu de fécule de maïs. Ensuite, on donne un petit bouillon, on met de l'huile de sésame, ça j'adore, on filtre, et ensuite on dépose le canard dans un plat, et on le badigeonne. Donc là, on y va franco, hein. On y va, on badigeonne.
Ça se fait à la main, ça, ou au pinceau?
Alors, au pinceau, mais on peut y aller avec... Moi, je préfère au pinceau, mais si on n'a pas de pinceau, on peut aller avec la main, on le badigeonne bien. On rentre bien à l'intérieur, sous les ailes, un petit peu sous la chair, comme ça, on a quelque chose d'assez croustillant. Après, et là, on le laisse poser. Une bonne demi-heure, moi je dis. On peut y aller de une demi-heure à une heure jusqu'à une demi-journée. Mais si on est pressé qu'on veut le faire le matin, on laisse une bonne heure, voilà, tranquillement.
On le met au frais ou...
Moi je le laisse bien... Alors, oui, on peut le mettre au frais, on le met au frais.
Bon, ok.
Mais on le sort un petit peu avant. Parce que c'est toujours important d'avoir les chairs à température pour cuire au four. Donc on le met au frais.
La cuisson.
On le sort. Et ensuite on le cuit 1h30 à 150 degrés. Et on y va, on renappe... Et ça caramélise et la viande cuit à l'intérieur. Et la peau doit être bien, bien croustillante. Et alors ensuite, soit on le mange façon pékinoise, on le tranche, ou alors on le fait à la française, c'est-à-dire on découpe le canard, on le mange, on fait une bonne purée de pommes de terre à côté.
Moi j'aime bien en fine lamelle.
On peut.
Bah voilà.
On taille le magret, les cuisses, et comme ça on jette rien. Et s'il nous en reste, on dépiote tout,
oui.
On le fait revenir dans une poêle, on fait une belle petite salade le lendemain, et on remange avec une petite salade.
Ah oui, le lendemain c'est très bon.
Ouais, j'adore, je jette rien.
Bonne journée à vous Cyril Lignac, bonne journée à vous qui nous écoutez RTL.